Vous écoutez
RMC.
RMC.
Venu à Nancy aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Il est 22h02 précisément, vous êtes sur RMC dans l'After, on est ensemble comme chaque soir jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, toujours parmi nous, qui était là avec les drôles de dames. Salut Daniel, rebonsoir Daniel.
Salut les amis.
Flo Gautreau également est parmi nous.
Je dis au revoir à Yann Crochet, tu
peux si.
Ah, bien vu, j'ai bien vu ce que t'as fait.
Mais j'aime pas quand tu parles comme ça Yann,
c'est
mon Yohan, j'aime pas vous voir parler tous les deux. Bonsoir Flo Gautreau.
Salut à tous, salut aux amis du bémol.
On vous attend comme d'habitude au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. On a J-2 du choc au MPG en 8e de finale de Coupe de France et qui sera suivi sur RMC. On a des places à vous faire gagner, les toutes dernières pour assister à la rencontre. On vous explique ça dans quelques instants. Avant, au sommaire, au programme de ces deux heures, au lendemain de la défaite de l'OM face à Nice, Flo va lancer un appel à Igor Fudor. Redeviens toi-même, remets ton costume de bad cop. Ouais. Il aime bien ça, Flo. Et avec cette défaite de l'OM, le PSG leader avec 8 points d'avance. Daniel Riolo a un avis tranché sur la sortie de Galtier, alors qu'il a demandé à son équipe de jouer pour Messi. On le réécoutera, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à l'issue de la victoire face à Toulouse de ce week-end. Et puis le coup de gueule des Lensois contre l'arbitrage après leur nul à Brest. Savoir qu'ils ont réagi de façon plutôt originale, créative, les Lensois. Le Racing a-t-il raison de se plaindre 32-16? Et puis les infos de Lens, Lyon, Lille à J-2, J-3 des 8e de finale de Coupe de France. On vous attend donc au 32-16. Avant d'ouvrir les débats, il y a de la Ligue 2 également ce soir. 22e journée, match entre Amiens et Metz. C'est match qu'on suit, qu'on vit avec Jean Baumel. Salut Gibault.
Salut Nico, salut Daniel, salut Flo.
Salut.
1-0 pour les Messins, but sur pénalty, un peu contre le cours du jeu. Fausse stupide au beaucoup dans sa surface de réparation et transformé donc par le géorgien. Voilà, pour l'instant, la bonne opération, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour Metz.
Beaucoup, hein. Du coup.
Pardon ?
Non, rien.
Oui, en fait, avec le retour, je pense, t'as fait un jeu de mots avec Opoku. Donc, pour l'instant, la bonne opération, forcément, c'est pour Metz, puisqu'ils reviennent à 3 points du deuxième. On rappelle que les deux premiers, montent en Ligue 1 et rien pour les autres, pas de barrage, puisqu'il y a 4 descentes en fin de saison. Donc, il reste une petite demi-heure. C'est Metz qui m'a initié à la licorne 1-0.
Et avec Gibault, tout à l'heure, on fera un point également au niveau de l'actu concernant Lens et Lille avant les matchs de Coupe de France et après les matchs de championnat. Juste avant ça, J-2 avant le choc au MPG en 8e de finale de Coupe de France. RMC vous offre les toutes dernières places pour cette magnifique affiche. Dès que ce son retentit, Daniel Colores, nous le met.
À un moment, j'entends ça, j'appelle pas déjà.
Oui, mais c'est à Marseille le match. Tu veux quand y aller ou pas? De toute façon, les supporters du PSG, on va en reparler, ils sont interdits de déplacement. Dès que vous entendrez ce son, donc, vous aurez 5 minutes pour tenter de remporter vos places pour OM-PSG mercredi en envoyant foot au 7-32-16. Voilà, foot au 7-32-16, ça peut tomber n'importe quand dans la journée.
Un hommage à Van Halen, prends-le comme ça.
Ouais. Non.
Mais toujours pas? Non.
Sauf que c'est pas le meilleur hommage à Van Halen parce que c'est un guitariste. Et c'est
je détestais ce groupe et ce genre de hard rock de bande FM. C'était vraiment ce que je n'aimais pas en musique.
Sauf que ce qui est marrant.
Au-delà de la symbolique, rien à voir. Là, je fais juste à aparté musical. Vraiment, Van Halen.
Ce titre, en fait, est un peu particulier chez Van Halen parce qu'en fait, ce qu'on entend, c'est les claviers alors que Van Halen était connu pour être un très bon guitariste.
Les vieilles guitares électriques stridentes. Hein. Oh là là.
Hier soir, l'OM justement a perdu au Vélodrome face à Nice. Marseille qui avait plus perdu depuis novembre dernier. L'OM qui a 8 points du PSG qui l'affrontera donc en 8e de finale de Coupe de France ce mercredi. Tudor qui a un peu fait tourner en vue de ce choc. Avis tranché de Flo Gautreau qui concerne Tudor justement.
Salut à tous, c'est Gilbert Bribois. La boucle d'oreille de Maradona a jugé 25 000 euros.
Alors Tudor qui avait aligné Dimitri Payet titulaire hier face à Nice, qui est arrivé qu'une seule fois d'ailleurs en cette année 2023. Et toi, tu veux lancer un appel à Igor Tudor
Oui, parce que je pense qu'en fait c'est la défaite de Tudor hier. On a suffisamment censé son travail depuis le début, mais Tudor s'est un peu égaré. Il a effectivement, bizarrement, de par sa compo enjambée, enfin signifie qu'il pouvait un peu enjamber ce match contre Nice. Je dis pas qu'il l'a négligé, mais ça donnait l'impression que son équipe type, tu l'as dit dans ton lancement, il se l'a réservé quand même pour le match suivant ou pour les matchs suivants et notamment le match contre le PSG. Et puis effectivement, je dis à Igor Tudor, redeviens toi-même parce que j'ai l'impression que depuis qu'il s'est entre guillemets, humanisé, alors que Flo Germain nous a suffisamment expliqué le fait que il est très dur, mais il aime aussi se montrer très dur. C'est-à-dire qu'il en fait un argument managérial depuis le début et son arrivée à l'OM. Une sorte de carapace très forte. On se souvient de sa résistance aux critiques, là, en début de saison, du fait qu'il avait mis Payet justement sans ménagement et sans justification auprès, notamment du joueur, sur le banc, qu'il avait fait, pareil à l'entraînement avec d'autres joueurs, Gerson, qui avait eu pas mal de soucis comme ça. Il avait, en gros, assis son autorité. Et puis, on a découvert un autre Tudor, un peu plus souple, un peu plus câlin avec Unai. On l'a découvert sur une interview d'après-match en zone mixte, non pas en zone mixte, alors sur le terrain, venir faire une accolade à Unai. Et puis avec, et c'est pour ça que je lui dis, j'avais ce message pour lui, cette diatribe assez étonnante la veille donc du match où il a expliqué que pourquoi il allait titulariser Payet, tout en disant au début de son intervention qu'en gros Payet ne collait pas avec son football, ce qui était assez clair et franc de sa part. Mais la conclusion de sa phrase était assez étonnante en disant, en gros, pour service rendu,
oui,
pour
se comporte bien, donc je récompense.
Pour bon comportement, je caricature un peu évidemment. Eh bien, je vais titulariser demain Dimitri Payet. Bref, ça c'est pas du Tudor. Le Tudor qu'on avait connu, c'est bah, quelles que soient les conditions. Et si je pense, et notamment contre Nice, qui est, et on en a parlé la semaine dernière, un concurrent, enfin un adversaire important et en forme. Eh bien, tu dois mettre entre guillemets ton équipe type, et surtout. J'ai été étonné aussi, c'est pour ça que je dis que c'est la défaite de Tudor, aussi de la gestion de l'attaque, parce que de mettre Vitinha tout de suite titulaire et seul en pointe et ne pas l'associer à Alexis, ne pas mettre Alexis Sanchez qui est en forme, je pense que Tudor a déjoué parce qu'on ne peut rien reprocher aux joueurs de l'OM sur ce match. Sur ce match, moi pendant la première demi-heure, avant que d'ailleurs Nice ne marque.
Mais d'ailleurs il a assumé à la fin du match, hein. Il a dit c'est ma défaite, hein. J'ai rien à reprocher à personne.
Bien sûr, et c'est vrai que j'ai cherché après à me dire, oui tu peux reprocher des choses à Payet, bien sûr, mais il a donné la solution avant le match, Tudor. Il a expliqué pourquoi Payet ne collait pas système. En revanche, le pressing très haut, Mbemba qui était partout, on a l'impression que l'OM était en train d'asphyxier Nice et on se demandait comment ils allaient se faire manger. C'est la défaite de Tudor. Donc la compo, la gestion du vestiaire, cette sensation un peu plus émolliente entre guillemets dans son discours, qui correspond d'ailleurs à des matchs où l'OM a raté sa première période. C'est aussi une petite rengaine récente. Ça fait beaucoup effectivement pour ce match-là. Et puis enfin, il y a une chose qui est un peu indépendante de sa volonté. Évidemment, il y a des équipes qui commencent à trouver un peu la parade. Par exemple, hier, avec, il faut avoir les joueurs pour, des joueurs capables de prendre le ballon, de le porter et de franchir les lignes marseillaises très vite, sachant que lui, derrière, il assume le déséquilibre et le jeu en un contre un en défense. Évidemment, à un moment ou un autre, ça peut et ça pouvait déjà arriver à l'OM. C'est pas forcément très grave. Sauf qu'hier, après avoir été mené, de par cette compo un peu erratique, l'OM a pris les deux buts d'écart qui rendent quand même le système compliqué, parce qu'après ils ont fait une bonne entrée de deuxième période, ils sont revenus à 2-1, mais il y a des moments c'est un peu compliqué. C'est la défaite de Tudor, et je pense que Tudor n'est pas tout à fait celui qu'il a été en début de saison, et que c'est peut-être aussi pour ça que l'OM a perdu hier.
Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. Ton avis, Daniel, là-dessus, est-ce qu'il est devenu finalement trop gentil, Igor Tudor, Alain?
Écoute, je sais pas, je suis pas fondamentalement contre l'avis de Flo, j'entends, je voulais peut-être aller plutôt prendre une autre piste que Flo commençait à aborder dans la fin de son avis et essayer de regarder finalement ce que fait l'OM depuis le début de la saison. Hier, ils se sont plantés, ça a été assez retentissant parce que c'était un gros match et parce que ce qu'ils produisaient ces dernières semaines était tellement intéressant qu'on avait fini par dire, voilà peut-être un client pour contrecarrer les plans du PSG. Il suffit qu'on le dise pour qu'il soit à 8 points et qu'on finisse par croire aujourd'hui que bon bah finalement on a peut-être vu trop grand pour cette équipe. Je sais pas ce que l'avenir nous dira, on verra bien, il vaut mieux que l'OM se focalise sur sa saison et sur son objectif de finir sur le podium, d'être en Ligue des Champions encore l'année prochaine. Donc je reviens à ce que disait Flo. Effectivement, bon ça on a bien compris depuis le début, Tudor effectivement le caractère tu l'as décrit, après ce qu'il veut dans le jeu et on l'a vu hier, bah c'est une prise de risque avec souvent du 1 contre 1 derrière, voire de l'individuel qui est forcément risqué. Un déséquilibre, parce que tu te projettes énormément. Parfois, ton dernier défenseur, il est à 40 mètres des buts de l'adversaire, pas à 40 mètres de tes buts à toi. Ça, c'est rarissime. Là encore, c'est risqué. Il y a une prise de risque généralisée, assumée. Et il a sorti une phrase à la fin que j'ai trouvée assez intéressante. Il dit finalement, prendre 3 buts par rapport à ce qu'on a concédé, c'est beaucoup. Marquer 1 but par rapport à ce qu'on a créé, c'est peu. Ça peut paraître tout con cette phrase, mais en fait c'est un petit peu comme si ça ressemblait à quelque chose, à son édifice un peu de fragile, ou en tout cas quelque chose qui dépendait des individualités que tu as sous la main, plus que de ta production collective. C'est pour ça qu'il dit, je peux rien reprocher aux joueurs dans la production collective. Néanmoins, et on l'a fait dès hier soir, et tu pourras pas dire le contraire Flo, sur on va dire les 2 premiers buts, notamment le deuxième, parce que l'image, elle était extrêmement flagrante. Le retour de Mendes, c'est difficile. Ce que fait Payet, bah, tu l'as dit. C'est parce que tu veux plus le voir sur le terrain, parce qu'il est pas fait pour ce jeu-là. Donc, t'es obligé de pointer quand même des individualités.
Oui, mais les individualités donc, gros, qu'il a mis sur le terrain,
ouais, en l'occurrence, absolument, pour Payet. Dans son choix, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça. Pour ça. C'est pour ça que je vais te rejoindre en disant, collectivement, ce que produit l'OM, moi, ça continue de me plaire beaucoup. Et c'est vrai que ça dépend après de, bah, si tes attaquants, ils marquent pas parce qu'ils sont inefficaces. Si tes défenseurs se déchirent parce que soit ils reviennent pas, soit ils ont une faute d'inattention, bah ouais, tu vas payer cher, et ils ont payé cher, et ils ont payé cher hier. Alors, ce que ça m'a poussé, ce constat, ce que ça m'a poussé à faire, c'est de regarder un petit peu finalement ce que faisait l'OM contre les gros. Ce que beaucoup disent, j'en ai parlé avec Jérôme, notamment Roten aujourd'hui, quand on faisait notre petite vidéo Winamax sur les paris. Il dit, ouais, mais regarde, contre les gros, finalement, ce système-là, bah, quand t'as une équipe qui a des individualités fortes techniquement, capable de ressortir les ballons, ils vont te déchirer, ils vont partir dans ton dos et ça va te causer des soucis. Évidemment, il a pas tort, on l'a vu hier, Nice avec des qualités et de la réussite a fait très mal à l'OM, comme Monaco avait fait mal à l'OM dans la première période, mais néanmoins, et c'était un gros match, dans la deuxième, l'OM est fort et peut gagner s'il n'y a pas ce que je considère être une mauvaise interprétation avec le tacle. Mais bon, le 1 partout, ok, prenons. Le bilan, bah, vous regardez les gros matchs, chacun évaluera ce qui est un gros match, mais quand ils ont joué contre le PSG, contre Monaco, le match aller, ils ont gagné. Contre Lens, ils ont perdu, ils vont rejouer. Contre Rennes, ils ont fait un nul, une victoire.
Et la Ligue des Champions.
Contre le PSG, ils ont fait un très bon match qu'ils perdent et c'était serré. En Ligue des Champions, moi, je trouve que ça manque de sérénité. Contre le Sporting, c'était un gros match. C'est le Sporting qui s'est mis dedans tout seul. Ils l'ont gagné. Contre les Spurs, les deux fois, ils perdent. Et les deux fois, ils donnent l'impression quand même de faire un bon match. Donc, est-ce que, au fond, l'OM doit changer quelque chose? Gagner en sérénité pour que t'aies pas l'impression qu'à force de faire des efforts, les mecs, ils aient le cerveau en marmite à un moment, ce qui fait que tu peux aussi rater des occasions quand tu, à force, à un moment, t'étais en apnée.
Est-ce que c'est pas un problème d'effectif? Parce que, au final, en Ligue des Champions, ils perdent parce qu'ils jouent tous les trois jours. Et là, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme. Donc,
pas forcément d'effectifs de nombre, mais peut-être
en
aussi
qualité, en profil de qualité, joueurs.
Quand tu veux avoir cette ambition-là, et ouais, rappelle un peu la saison de Bielsa. Ouais. Bielsa aussi, il assumait tout le déséquilibre.
Sauf qu'on a dit un peu l'inverse depuis ce mercato d'hiver. C'est-à-dire qu'autant c'était un argument qu'on pouvait entendre en début de saison, sauf que là, on trouve que qualitativement, ils se sont encore bien renforcés et qu'on se disait là, non seulement ils jouent plus tous les trois jours, mais en plus ils ont Unai.
Mais peut-être qu'ils auront récolteront les fruits.
C'est pour ça
ils
que...
récolteront peut-être les fruits dans les semaines à venir. Ouais, là où il y a eu une erreur, et tu l'as souligné hier, c'est que l'effectif, il a voulu en pensant au match du PSG, il a voulu justement se servir de sang frais. Et le sang frais, bon, bah, c'est certainement pas le Payet, le sang frais. Et Vitinha, il était certainement pas prêt à être lancé tout de suite. Donc là, il y a eu erreur sur le choix des hommes. Mais quand je parlais de renforcer, peut-être également en qualité, quand tu veux jouer effectivement, parce que Liverpool aussi, à un moment, ils prenaient des risques de dingo quand ils jouaient haut, là, leur football, hard rock football, machin. Sauf que derrière, quand t'as un Van Dijk qui assume le 1 contre 1, parce que en 3 courses, il te met la main sur l'épaule de l'attaquant, il dit bouge pas petit. Et effectivement, eux aussi, ils prenaient beaucoup de risques. Mais si devant, à l'époque, t'as Mané, Salah en pleine bourre, qu'il a moindre occasion ou frappe, ça fait lucarne ou ça fait but, ça compte beaucoup quand tu veux jouer de cette façon-là. Donc au final, est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il faut dire « Ah, mais attention, les risques que vous prenez et tout ?» Moi, je dis « Surtout pas. » D'abord parce que c'est mon avis perso, mais c'est le football que j'aime. Deux, bah regarde Arsenal qui fait une saison extraordinaire. Ils perdent quand eux aussi c'est un football où il y a prise de risque. Peut-être pas exactement de la même façon, mais en tout cas il y a un football protagoniste qui va de l'avant, qui prend des risques. Bon ben voilà, ils se sont fait déchirer par Everton qui est une équipe un peu en bois cette année. City, ça leur arrive souvent. Combien de fois on a dit ah City en Ligue des Champions, vous êtes pas assez solide, faut faire attention machin. Bon ben voilà, c'est des choix de football. Est-ce que forcément tu gagnes en ne jouant pas comme ça ou en jouant autrement?
J'en suis pas convaincu non plus.
Mais là, là moi, je pense que justement, juste le débat, c'est pas franchement effectivement de changer, parce que moi, effectivement, je suis d'accord. J'ai même pensé à un moment donné qu'ils allaient asphyxier les Niçois. Je trouve qu'ils faisaient comme d'habitude.
Bah, c'est le management.
Bon, le management, d'autant que il a maintenant un banc comme ça. C'est-à-dire que ne pas commencer, par exemple, quitte à lancer Vitinha. Moi, je pense que Vitinha fallait le lancer plus tard dans le match, en faire ton attaquant.
Comme il a fait avec Unai à Nantes.
Exactement.
Le faire rentrer plus tard.
Les mecs font le job, font le boulot, et toi derrière, tu essaies d'apporter sans pression.
Ouais, je suis d'accord.
Avec moindre pression.
C'est une vraie erreur.
Là, tu dis à Vitinha, c'est toi qui joues. Et en plus, tu joues seul. Moi, je pense que, on l'avait dit avant sur Vitinha, il peut mieux jouer à deux. Si tu fais Alexis Vitinha et que tu mets pas Payet, déjà, t'as pas la même équipe et t'as plus de chances de transformer tes occasions. Et pour terminer juste sur le point de Daniel, je pense qu'effectivement, qualitativement, l'effectif est pas mal. Mais que s'il y a un endroit où il faut le renforcer, sachant que t'as un contre un derrière, c'est derrière. T'as Mbemba.
Allez.
T'as Gigot pas mal. Mais Balerdi, par exemple, parfois insuffisant. Même si, moi, j'aime bien ce joueur. Je pense que dans ce style de jeu, il faut des gars très, très, très fiables.
On vous rappelle, Balerdi et Bailly qui sont suspendus.
C'est beaucoup de mousse, mais parfois.
Pour le match face au PSG, ce sera mercredi. On poursuit les débats dans quelques instants. Vincent nous a appelé au 32-16. On est avec Daniel Riello, avec Flo Gautreau dans l'after. On vous rappelle qu'il y a des places à gagner pour OM-PSG. Dès que vous entendrez le son de Van Halen, vous aurez 5 minutes pour envoyer foot au 7-32-16 et pour tenter de remporter des places pour le 8ème de finale de Coupe de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
Accompagné de Flo Gautreau et de Daniel Riolo, on est à J-2 du match entre Marseille et le Paris Saint-Germain, 8ème de finale de Coupe de France que vous vivrez sur RMC. À vie tranchée de Flo Gautreau il y a quelques instants. Igor Tudor, remet ton costard de Bad Cop. On vous attend en 32-16, supporters de l'OM, pour réagir. Juste avant cela, petit détour par le stade de la Licorne avec Jean Baumel, Amiens-Metz.
Ça fait deux pour les Messins. Corner bien tiré, premier poteau, déviation d'Ata. Arthur Ata qui touche le poteau et ça rentre, et ça fait donc 2-0 pour le FC Metz à 10 minutes de la fin. Même si Amiens pousse, Amiens se fait bien avoir sur cette rencontre. Ben, c'est la superbe opération. Et pour les Lorrains qui, avec l'Aslo Bologna, 70 ans quand même, je pensais pas qu'il était aussi vieux, le coach roumain, reviennent à 3 points de la deuxième place au show. Donc voilà, il reste 10 minutes pour réagir aux Amiénois, mais ça semble compliqué.
Merci Gibaud. On accueille Vincent, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Vincent.
Salut tout le monde.
Salut Vincent.
Alors Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de la vie de Flo? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu trouves que finalement il est un peu trop mielleux en ce moment, Igor Tudor à l'OM?
Bah, moi je pense que c'est plutôt un excès de confiance. Daniel a raison, jusqu'à présent ça roule, ça marche un peu sur l'eau, ça développe du beau jeu, tout le monde est content, tout le monde est satisfait, etc. etc. Et puis quand on se retrouve face à une équipe qui... contre qui on peut faire un bon résultat et se rapprocher du PSG, et ben on se la joue un peu cool, on dit bah tiens, on va faire plaisir à Payet, on met sur le terrain, on fait débuter le petit, il va faire un bon match, etc. Alors qu'en fait c'est complètement l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu assurer nos arrières. Et puis effectivement, si en deuxième période on mène de 1 ou 2 buts, et ben là on peut faire jouer un peu tout le monde. Et sans trop prendre de risques. Sauf que là, bah, on s'est vu trop beau et je pense que c'est un peu dommage parce que on a perdu l'occasion de se rapprocher de l'objectif qui est officieux, c'est-à-dire d'aller chercher une deuxième place et d'aller chercher le PSG à la première, quoi. Donc c'est très dommage parce que dans le contenu, il a raison aussi, Tudor, on peut rien reprocher aux joueurs, ils ont fait leur match. Par contre, Guigard, il a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il a su rebondir et je pense que sa composition, elle est en fonction de celle de l'OM. Quand il a vu qu'il y avait Payet et Vitinha, il a dit bah vas-y, hein, on va tout jouer sur nos atouts et puis on va mettre le pressing super haut et puis Marcus Thuram il va faire le taf. À chaque fois qu'il a une possibilité, il met une galette, il met une frappe et advienne que pourra. Et voilà, ça a marché.
T'es dans quel état d'esprit toi avant le match de mercredi là? T'es confiant ou pas plus que ça?
Moi, très sincèrement, je m'en bats les couilles. Enfin, pardon. je m'en fous du match de la Coupe de France. C'était un objectif.
Je comprends pas comment tu peux t'en foutre.
T'as pas gagné de titre depuis 10 ans, Vincent.
Non, mais c'est peut-être un objectif, mais au final, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le championnat, d'aller chercher la deuxième place, voire même la première, aller chercher la Ligue des Champions pour l'année prochaine et maintenir ce niveau de jeu qu'on a jusqu'à présent. etc. Moi, la Coupe de France, c'est pas un objectif pour moi. Ça fait X années qu'on la gagne pas. C'est pas pour aujourd'hui. Non, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que
Ça, c'est un avis étonnant, ça. Mais bon, écoute.
Non, mais c'est peut-être un avis étonnant, effectivement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le championnat, et ça restera le championnat. La Coupe de France, c'est sympa à gagner, mais c'est
tu gagnes la Coupe de France en éliminant en route le PSG. Non, tu vas pas triper. Tu vas pas triper.
Et rien t'empêche de finir deuxième aussi. Hein.
Non, mais attention. Je serais hyper content qu'on batte le PSG et qu'on aille en finale et qu'on gagne la finale, etc. Qu'on ait un titre. Je serais hyper heureux. Il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce qui m'intéresse, ça reste encore une fois le championnat.
Mais c'est-à-dire, c'est quoi le championnat, Vincent? Moi, c'est ça que je comprends pas.
Bah, c'est le championnat, c'est de faire un truc. On est.
Finir deuxième, c'est pas un truc.
C'est deuxième.
Non, mais bah, justement, là, on a la possibilité de. On a l'équipe, on a l'effectif, on a le banc d'aller chercher le titre officiellement sans se cacher. On peut le faire. Donc, je préfère qu'on fasse un match moyen en Coupe de France à le perdre. Même en jouant sérieusement, mais à le perdre. Et derrière, aller les claquer le 26, plutôt que l'inverse.
Et pourquoi pas les deux? Moi, c'est ça le truc, surtout. Moi, que je...
Bah, laisse-le, par c'est contre... un choix, laisse-le tranquille aussi. C'est vrai que tu poses
on
des
peut
questions.
Faire les deux, Vincent. Tu peux finir deuxième et gagner la Coupe de France.
Et tu te poses des questions,
bien sûr, mais encore une fois, ça me plairait. Mais très sincèrement, la Coupe de France.
Il est réaliste. Il sait qu'il va pas gagner les deux matchs, laisse-le.
T'as dit que c'est plutôt
une posture
du style. Si tu avais à choisir. Si t'avais qu'une victoire sur deux, tu prendrais laquelle?
En fait, depuis tout à l'heure, il fait un tu préfères.
Ouais, c'est vrai.
Je prendrais le championnat.
Voilà, on a compris là, maintenant.
Parce que c'est vrai que statistiquement, se dire que l'OM va battre les deux fois le PSG, pas évident non plus.
C'est-à-dire
que tu bats deux fois le PSG.
Tu bats le Vélodrome, on s'en souvient à peine.
Non, mais après,
de la
tu bats
fois.
Le PSG en championnat, tu reviens encore en hauteur.
Tu te remets dans le jeu.
Bah, tu te remets dans le jeu, mais t'es encore loin quand même. Il y a 8 points, les gars. Il y a encore 5 points.
C'est pour ça qu'il faut prendre chaque point, ou on peut les prendre.
Ok. On a compris.
Pour moi, oui.
Ok, Vincent.
Merci, Vincent.
Merci d'avoir été avec nous, Vincent.
Plaisir.
Bonne soirée, à bientôt, Vincent.
Après, un truc que va devoir gérer l'OM. Dans la foulée de ce qui s'est passé hier, c'est aussi ces équipes comme celles qui face au PSG maintenant se disent c'est vraiment possible. Maintenant c'est le cas face au PSG. Bah hier Nice a montré qu'il y avait des solutions face à l'OM. Alors on le sait, on le voit parce qu'il y a le déséquilibre dont parlait Daniel tout à l'heure. Mais ils ont montré aussi, j'insiste, avec ces porteurs de ballon, ces franchisseurs de ligne. Alors évidemment, il faut avoir des joueurs capables de le faire.
Il faut des joueurs pour le faire. Mais dès que tu crées toujours du danger contre l'OM. Mais après, tout le monde a des points faibles. Ouais. Quand tu joues contre le PSG, tu sais aussi que si tu presses, si t'es capable de récupérer le ballon et de jouer vite en transition, les défenseurs sont pas assez bons.
Différence, c'est
tu peux souvent les prendre de vitesse.
Ah oui, mais le PSG, tu le sais parce que si le PSG, ce qui est souvent le cas en ce moment, ne met pas d'intensité, tu vas en plus pouvoir les mettre
minables. Si t'as de la qualité devant, tu vas leur poser
alors
des problèmes.
Alors que l'OM, jusqu'à présent, tu te faisais manger et tu voyais pas trop la possibilité, même si tu le savais, qu'il y avait des 1 contre 1. C'est vrai que Monaco l'avait bien montré. Voilà, ce que Nice a fait hier, c'est aussi quelque part intéressant pour la suite. Mais il y a un avantage, il y a toujours un avantage dans une défaite. Je pense que s'il y a eu un tout petit peu de relâchement, s'il y a eu un tout petit peu de volonté de sauter, d'enjamber ce match en pensant un peu aux autres derrière, toutes ces petites choses qu'il ne faut pas faire, je pense que ça va servir comme d'alerte pour tout le monde, pour Tudor en premier, pour ses compos, pour ses débuts de match aussi parfois, ses premières mi-temps qui parfois ont été moins bonnes. On dit à chaque fois d'ailleurs, Tudor il a dû leur remettre une sacrée à la mi-temps, il a changé au moins un joueur, mais il a fait plusieurs changements ensuite. Je pense que voilà, c'est une défaite qui peut faire du bien à l'OM dans le moment qui arrive.
Dans quelques instants, des infos concernant Lens et Lille qui joueront également leur 8e de finale de Coupe de France. On fera ça avec Jean Baumel qui nous fait vivre le match entre Amiens et Metz. Ça bouge pas, Gibo, hein, toujours 2-0.
On va voir le 3e pour Metz, le poteau qui sauve poteau de Savali, qui sauve Régis Gartner. Je pense que Amiens va perdre chez lui avec ce score au moins de 2-0. Il reste 2 minutes dans le temps réglementaire.
Ouais, et dans quelques instants, on entendra Francaise qui a poussé un coup de gueule contre l'arbitrage après le match nul de son équipe à Brest. Et puis vous allez écouter également une petite prod qui a été faite par le Racing Club de Lens pour se plaindre de l'arbitrage, que vous retrouvez notamment sur les réseaux sociaux. Supporters de Lens, on vous attend avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo au 32-16. À tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Villas.
22h33, vous êtes sur RMC dans l'after avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. Vous êtes également sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Tiens, il y a Bruno qui nous écrit par exemple, battre deux fois le PSG, c'est possible vu le jeu du PSG et ses absences. Voilà, il y a pas mal de réactions également. Tout à l'heure, on aura un avis tranché d'ailleurs de Daniel, notamment sur la sortie de Christophe Galtier concernant le style de jeu et le tout jouer pour...
Par rapport à ce que dit le message. La seule réserve dans l'idée que l'OM peut battre deux fois le PSG, c'est juste que le PSG a des individualités qui sont tellement fortes et encore devant, il lui manque Mbappé. Mais que quant à Messi et Neymar, le truc c'est toujours de te dire, bon bah oui, ces gars-là sur un geste peuvent toujours faire un truc, mais collectivement sur ce que tu proposes, évidemment que l'OM a largement les moyens de battre le PSG qu'on voit depuis le retour de la Coupe du Monde. Et c'est un PSG qui, n'importe quelle équipe moyenne, le met en danger. Donc pourquoi l'OM le ferait pas non plus? C'est juste que tu ne te risques pas à ce genre de pronostic parce que tu te dis, bah, regarde le match contre Toulouse au Parc. T'as un ballon qui traîne en entrée de surface. Messi, il t'envoie une frappe, là, bim, dedans. Neymar va revenir, là. Bon, il a digéré son anniversaire, là. Maintenant, il est tranquille. Là. Il a fait la fête samedi soir. Ah oui, d'ailleurs, parenthèse, j'ai lu partout que il avait fait la fête tranquillement chez lui et tout. Non, pas du tout. Il a fait une grosse soirée où il y a pas mal de joueurs du PSG dans un établissement qui s'appelle le Bonny à Paris. Et voilà, je sais pas pourquoi les gens veulent qu'il reste tranquille. Il reste pas tranquille.
Ouais, tu peux faire une soirée à l'extérieur, il est tranquille.
Évident. Ouais. Non, bon, j'ai vu quelques photos, il était pas très frais. Bon, en même temps,
il a fini avec Clyde.
Ah, écoute, ça,
avec Bruno, apparemment, ils se sont remis ensemble.
Oui, ça y est, c'est la grosse actualité du moment. Bref, un type comme ça qui a vraiment envie de jouer, bah, tu l'as vu à la Coupe du Monde, il est capable. Le tout, c'est de savoir à quel moment ils ont envie de bien jouer collectivement au PSG ensemble. C'est ça qui fait que tu ne peux pas envisager que cette équipe perde. Après, malheureusement, les prestations récentes, elles sont tellement catastrophiques que moi, si j'étais Marseillais, j'y croirais à 100%.
On va revenir sur le PSG dans quelques instants. Juste avant ça, on va parler un peu de Lens également. Ça a de l'eau du résultat du week-end. Nul de Lens à Brest, un partout. Alors, match marqué par des décisions arbitrales de Benoît Bastien qui ont beaucoup agacé les Lensois, à commencer par Francaise après la rencontre. On va écouter. Francaise. Il est là, Francky.
Tranquille. Il y ait débat à la limite sur le pénalty pour nous, sur la main de Belkebla. Je pense que c'est un geste naturel. Bon, un bras qui monte comme ça, c'est pas tout à fait naturel, mais il peut toujours y avoir débat, pourquoi pas. Je pense que sur l'action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction et qui ensuite amène l'action du contre et du centre. Donc main offensive, jusqu'à preuve du contraire, elle doit être sifflée. Elle l'a pas été. J'ai demandé qu'on la voir. Non, c'est checké. On me dit même que le joueur est au sol. Il est jamais au sol. La main est pas au sol. Donc, c'est même pas ce qui s'est passé. Et puis après, on a un joueur aux urgences aussi, sur un tacle, j'estime, très limite, qui vaut au moins un jaune, ce qui aurait été le deuxième à 30 minutes de la fin.
Alors si c'est assez finalement visuel hein, ce que raconte Francaise, mais il décrit pas mal les actions. Si vous avez pas vu, vous allez sur les réseaux sociaux du Racing Club de Lens qui a fait une compile avec toutes les actions justement litigieuses de cette rencontre. Et voilà ce qu'ils ont produit, le RCL, même au niveau sonore, c'est plutôt marrant ce qu'ils ont fait sur un mode KDO. Écoutez.
La compile de la VAR oubliée. Il préfère le hand au foot, c'est Jean-Michel Sajou. Oh, c'est Jean-Michel Papineau.
Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, en vérité c'est facile.
Il n'aime pas la couleur jaune, c'est Jean-Michel Pâte-Carton. La compile de la VAR oubliée, malheureusement, déjà dans les bacs.
Ah, pas mal ce qu'ils ont fait, les Lensois. Ils prennent ça à la dérision,
une
finalement.
Une communication très originale. Bon, après, la dérision a des limites, parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien énervés.
Ouais.
Comme ils sont dans une sale période et qu'ils ont dorénavant de grosses ambitions, bah, ils sont un petit peu comme tout le monde. Ils pleurent sur l'arbitrage. À juste titre, il y a eu des moments peut-être où ça a mieux tourné pour eux. Et là, ils font un petit peu ce que font beaucoup de clubs quand ça tourne pas dans le bon sens. Ils se plaignent. là, c'est difficile de leur donner tort. La semaine dernière, c'est Longoria qui a pété un câble sur le tacle. Merde, qui c'est qui s'est fait nettoyer la cheville, là, j'ai oublié. Bon, c'est Colasinac qui s'est fait démonter.
Et avant ça, il y avait eu la sanction vis-à-vis de Bailly aussi. Bon, même si là, c'est un détail
administratif. Ouais, voilà.
Alors, Jean Baumel est toujours avec nous. D'ailleurs, c'est fini, Gibou.
Ouais, 2-0 pour Metz.
À Amiens. Voilà, victoire de Metz, donc à Amiens qui passe.
Le Metz devant. D'Hélène Schroub.
Ouais, exactement. Gibou, on évoquait justement les Lensois.
Bon, il ne veut toujours pas parler. Ouais. Madame Schroub, il faut parler. Vous êtes au Gomex.
Ils sont très remontés les Lensois, ils prennent ça avec la dérision, mais c'est vrai que comme disait Daniel, on sent qu'ils sont un peu en mode vénère quand même, les Lensois.
Bah, ils veulent marquer le coup avec des images plutôt que de faire un communiqué qui aurait été moins sympa, et là on aurait pu dire ouais, c'est des pleurnichards. Voilà, c'était histoire de marquer le coup que voilà, Lens est un club sympa, mais voilà, 3 erreurs d'arbitrage sur leur match, ça fait beaucoup, et c'est vrai que quand on n'est pas très bien en ce moment, même si quand on regarde le parcours de Lens, hein, c'est plus de 2 points par match. C'est quand même assez dingue pour un club qui a, rappelons-le, hein, que le 12e budget de Ligue 1. Mais c'est vrai, comme le dit Daniel, ils ont des ambitions, ça revient derrière, devant ça s'éloigne. Bon, je pense pas qu'ils imaginaient être champions, mais c'est vrai qu'il y a de grosses ambitions, et ne pas être européen, je pense, ne pas finir dans les 4, au moins être directement, tu vois, 4e, directement en phase de poule de la Ligue Europa. Ouais, ce serait une déception. Donc voilà, s'ils sont dans un moment un petit peu moins bien, ils ont du mal à marquer, c'est ça leur gros souci en ce moment. Ça reste quand même la meilleure défense du championnat, faut pas l'oublier.
Moi, hein. Ouais, je pense quand même que c'est pas très audible, parce que là on est en train de passer un petit peu ce qu'on ne passe pas aux autres. On le passe à Lens parce que c'est Lens, parce qu'ils sont plutôt sympas, parce que Aise on l'aime bien. Or, et parce que la prod est bien faite et elle est plutôt marrante, donc moi j'aime bien ça, je trouve que l'humour est pas mal. Mais je pense que tout coach qui fait ça, ce qu'a fait Aise, est à côté. Quand ton équipe, et là Gibo l'a dit, n'arrive pas à marquer, les mecs sont moins bien. Fofana est moins bien, Openda est moins bien. Ils sont tous moins bien. Ils ne marquent pas contre eux. Enfin, ils marquent, mais ils marquent un but contre 3, 0 contre Nice et 1 contre Lens, contre Brest, pardon. Voilà. Et puis, sans parler du nombre de buts, il suffit de voir dans le match, Lens a du mal à marquer. Si tu es entraîneur, si tu penses que tu ne gagnes pas le match uniquement à cause des décisions d'arbitrage, c'est une erreur.
Non, mais là, t'as quand même un mec à l'hôpital.
Je pense qu'il va marquer le coup.
Ce que je veux dire, c'est que sur une saison, si tu veux jouer comme eux, et c'est le cas à l'autre tableau, évidemment, tu tombes dans les mêmes. En fait, ils retombent exactement dans les mêmes travers que le Jean-Michel Aulas de la grande époque. Voilà, que Longoria l'autre jour. Longoria sur Bailly. Qu'est-ce que tu veux, même sur le club sur Bailly? Bailly, il a découpé le mec. C'était terrible. Il a pris une sanction comme en foot amateur. T'en prends très, très souvent. Donc, aujourd'hui, même si dans ce match, ponctuellement, tu peux trouver des choses à dire, je suis certain qu'on pourra trouver aussi dans la saison passée, dans cette saison, des moments où Lens n'a pas été désavantagé, au contraire, par l'arbitrage. Et je trouve juste que, et même si les faits sont exacts, qu'il y a d'autres raisons au coup de frein lensois. Oui, et ces raisons, clair. Elles sont liées uniquement aux Lensois et à leur façon de jouer. C'est une façon également très exigeante, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui a déjà parfois montré ses limites offensivement, parce que les joueurs aussi offensivement sont parfois un peu plus limités. Il faut le reconnaître avant de parler des erreurs d'arbitrage.
Ouais. Tiens, juste Gibo, une chose, parce que tu le disais, hein, ils sont un peu moins bien les Lensois en ce moment, 3e match en succès, hein, avant d'aller à Lorient en Coupe de France et à Lyon. Ils sont 3e de Ligue 1, hein, cela dit, à égalité de points avec l'OM, avec 2 points d'avance sur Monaco seulement. Comment Lens se positionne par rapport à la Coupe de France?
Bah, la Coupe de France, c'est quand même le seul trophée que Lens n'a pas gagné. Donc forcément, le rêve, ce serait de l'emporter. Voilà, il y a plein d'équipes pro qui disent voilà, ça démarre à partir des 8e de finale. Là, ils n'ont pas un cadeau parce que c'est à Lorient et c'est un adversaire qui est intéressant, qui est pas simple, hein, et ça va être le retrouver entre Régis Lebris et Patrick Francaise, hein. Vous savez qu'ils sont très potes, hein, dans la vie privée, hein, ils sont vraiment très 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 très, très proches. Donc ouais, non, on sent que voilà, ils veulent aller loin maintenant. Voilà, c'est je pense que le championnat, ils espèrent surtout passer par là pour aller en Coupe d'Europe. C'est ce qu'il y a de plus sûr maintenant, la Coupe de France. Voilà, s'ils arrivent à le gagner, ce serait voilà, Francais serait le premier entraîneur du Racing Club de Lens à le faire. La dernière finale, c'était en 98 avec Daniel Leclerc, et ça s'est mal passé contre le PSG. Oui, forcément. Mais on n'en parle pas tant que ça à Lens. On est plus focus sur le championnat.
On accueille Norman, supporter du Racing, qui nous a appelé au 32-16. Salut Norman.
Salut.
Salut Norman.
Alors, comment t'as réagi, toi, ce week-end? Comment tu vis, toi, cette période, on va dire, un peu moins joyeuse pour Lens?
Ouais, je suis beaucoup plus pondéré que vous. Alors, c'est moi le supporter, mais alors là, je vais vous rafraîchir un peu quand même, parce que dire qu'on est dans une période de moins bien, que ça fonctionne pas, etc., on a un peu moins de réussite offensive. Maintenant, on fait quand même des matchs très corrects, on a des stats qui sont super intéressantes, l'équipe continue à produire du jeu.
T'es toujours à 2 points de moyenne par match, comme le disait Jean il y a 2 minutes, et il a parfaitement raison, le bilan est encore très bon, et tout le monde traverse des périodes un peu compliquées en ce moment. L'OM a perdu, Rennes est en train de glisser, il n'y a que Monaco qui discrètement semble s'être mis sur l'autoroute. Mais pour le reste, il ne s'agissait pas pour nous de dire qu'il y avait panique à bord. C'est que quand t'es habitué à bien manger toutes les semaines, avoir une table bien garnie, quand t'as juste un bout de pain sur la table, t'es forcément un peu déçu. C'est juste ça, en fait. Et t'as pas envie, évidemment, que même le pain devienne rassis. T'as envie vite de retrouver tout le reste.
On peut pas être déçu, les gars. Il y a 3 ans, on n'arrivait pas à battre Orléans, donc on savoure. Donc il faut juste être raisonnable. On va pas finir champion de France en étant vaincu.
Je veux dire que tu serais pas, même si ce que tu dis est vrai, il y a 3 ans, machin. Tu veux dire que quand t'es habitué à aussi bien manger, tu serais pas déçu de pas être sur le podium à la fin? T'as pas envie d'aller voir la Ligue des Champions de près?
Mais bien sûr que j'ai envie.
C'est tout ce qu'on disait, c'est que tu seras peut-être un peu déçu pour ça.
Mais non, mais après dire que la com du club d'aujourd'hui par rapport à l'arbitrage est liée à un moins bien et que ce serait une espèce de camouflé pour un petit peu pas parler des vrais sujets, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que les matchs, si vous les avez regardés, 3, on doit gagner 15 000 fois, on n'a vraiment pas de réussite. Nice, ça c'est Nice pour le coup, c'est pour moi une des équipes les plus fortes qu'on ait rencontrées cette saison à ce moment-là. Et puis à Brest, alors là, moi je veux bien en parler, mais Il y a rien qui va, quoi, du début à la fin. C'est-à-dire que Pereira da Costa, il s'arrache le tendon d'Achille. Medina, il prend un jaune, il n'a rien fait. Et ensuite, il y a 3 trucs, mais monstrueux. Et c'est dommage qu'on n'ait pas un système vidéo qui permette de voir des choses que l'arbitre ne peut pas voir sur le terrain, parce que c'est un scandale absolu. Alors après, il ne faut pas pleurer là-dessus. On ne va pas faire toute la saison là-dessus, mais je trouve ça bien que le club le mette. De mémoire, Reims, en début de saison, le président avait un peu hurlé sur l'arbitrage. Il n'y a pas très longtemps, Camboiré aussi. Il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de l'arbitrage en France. Alors, c'est pas nouveau, mais là, le match d'hier, c'est vraiment incroyable. Il y a un joueur qui est quand même blessé, qui a fini aux urgences, et il n'y a même pas de carton. Enfin, je sais pas. Moi, je suis dépité, quoi. Mmh. Vraiment. Au-delà du résultat et du contenu, parce que Lens aurait pu mieux faire, et puis, voilà, mais franchement, c'est honteux, quoi. C'est honteux.
Bah, ce sera jeudi. Merci, Normand, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt, Normand.
Bonne soirée.
Salut, ciao, Normand. Voilà, ce sera jeudi, 8e de finale de Coupe de France. Gibo, tu restes avec nous dans quelques instants. On évoque Lille, qui aura son 8e de finale de Coupe de France. Ce sera à Lyon. Ce sera mercredi à 18h15 à vivre là aussi sur RMC. Ça, c'est pas malin comme match. Hein. Mm. Pas mal du tout également.
Et ça va falloir un excellent Lyon pour sortir Lille.
Ouais, c'est vrai. Et nous, on en reparle dans quelques instants.
Deux dirigeants, en fait. Deux types de dirigeants un peu interventionnistes.
Ah, bah, il y a un peu de tension dans les deux camps, là. On va notamment évoquer.
Pourquoi vous n'enlevez pas les un peu de vos phrases?
Cette manique à Olivier Létang,
mais toujours, pas du tout. Arrêtez avec le
peu. Jean-Michel un peu. Allez, à tout de suite sur RMC avec Daniel Riolo et Feu Gaudron.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Florent Gautreau, Daniel Riolo, Jean Baumel est toujours parmi nous, toujours au stade de la Licorne, où Amiens a perdu ce soir face à Metz en 22e journée de Ligue 2. On évoquait Lens avec toi, Gibo, il y a quelques instants. Mercredi 18h15, Lyon-Lille, lui, autre 8e de finale de Coupe de France. On va évoquer l'OL, hein, d'ailleurs, supporter de l'OL, on vous attend en 32-16. Parlons de Lille d'abord, le LOSC qui s'imposait 3-1 à Rennes ce week-end, qui revient à 2 points des Bretons et des places européennes au classement de Ligue 1. Gibo, petite question avant ça, je t'ai posé la même sur Lens tout à l'heure, mais là aussi, comment Lille se positionne par rapport à la Coupe de France, sachant qu'il y a l'Europe en ligne de mire via le championnat aussi?
Coupe de France, alors on sait que Paulo Fonseca aime ses compétitions parce qu'il l'a gagné avec le Shakhtar, avec Braga, la Super Coupe avec Porto, tu l'avais dit, Nico. Donc c'est une compétition qu'il aime bien, mais il dit voilà, il faut attendre d'arriver un peu plus loin. Bon, c'est sûr que s'ils arrivent à passer Lyon et puis forcément t'auras un gros qui va sortir avec Paris et Marseille, c'est sûr que le tableau il peut être intéressant pour Lille pour la suite. Hein. Donc voilà, ce qu'il faut c'est que Lille tienne physiquement et Lille surtout aime bien jouer contre des équipes qui sont pas pas en bloc bas. On l'a vu contre Rennes, on l'a vu, ça sera certainement le cas contre Lyon, ce qui devrait, on l'espère, en tout cas,
ça doit faire un très beau match. Hein.
Ouais, carrément.
Enfin, avec Lille, souvent les matchs sont bons, mais quand en face il y a une équipe qui veut jouer, c'est encore mieux.
C'est là tu te régales. Le coup à Rennes, on le sentait venir quelque part. C'était le match qu'il leur fallait pour se relancer. Et voilà, avec un excellent André Gomes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce joueur, mais quand il est en forme et quand il est titulaire ou qui rentre en jeu,
Ils ont quelques joueurs de classe, les Lillois. Pourquoi il était plus d'ailleurs titulaire? Parce qu'il était moins bon?
Non, souvent blessé.
D'accord, c'est son problème depuis
pas, ça.
C'est sûr que c'est un joueur d'un autre niveau là.
Et Ismaili aussi qui est blessé, mais aussi qui est un joueur dont on parle très peu, mais qui est très bon fort joueur.
Mais ils ont quasiment que des beaux joueurs de foot. Hein,
on parle souvent de David, Benjamin André ou José Fonte ou Chevalier ces derniers temps, mais André Gomes, entre autres, c'est pas mal.
André Gomes, il a un petit côté Renato Sanchez hein, d'ailleurs aussi. Hein. Très souvent blessé là depuis pas mal d'années,
il se relance un petit peu.
Non, je veux dire dans la fragilité. D'ailleurs, alors c'est physique. Et André Gomes, c'est même psychologique. Hein. Il avait avoué qu'au Barça, il était tombé en dépression. Il voulait pas sortir de chez lui.
Mais tu sais que c'est un aspect. Moi, quand j'ai vu Renato Sanchez tomber et fondre en larmes, parce que tu sens que le mec est à bout, il dit je vais jamais m'en sortir. Je suis toujours blessé. C'est vrai qu'il est toujours blessé. C'est à se demander est-ce que son corps est vraiment fait pour le haut niveau? Peut-être que tout simplement son corps n'est pas fait pour ça. Je me souviens que pendant des années, c'est pas la même histoire. Mais personne ne voulait se dire, parce que le gars avait beaucoup trop de qualités, que c'était un joueur fabuleux, que Diaby et son corps n'étaient pas faits pour le foot. Comme à une autre époque, dans un autre domaine, puisque tu parlais de la psychologie, Gourcuff a fait deux bonnes années, mais il n'était pas fait pour le foot. Sa tête, lui, c'était pas son corps, c'était sa tête, n'était pas faite pour le haut niveau. Et tout ce que ça comportait. Quelque part, un type comme Ben Arfa, il a eu quelques saisons, sur la 2 sur 10, on va dire. Bah, pareil, sa tête était.
Plus sa tête.
Oui, aussi, pas certains,
c'est le corps, et parfois c'est la tête qui commande au corps.
Oui,
c'était un peu les deux.
Sa tête était pas faite pour le haut niveau. C'est tout. Et ça, il y a des joueurs de talent comme ça qui ont raté leur carrière à cause de ce genre de choses-là. Et le pauvre Renato Sanchez, il est l'un dedans. Peut-être André Gomes, je sais pas. Vous le connaissez mieux que moi, s'il faut le mettre dans cette catégorie-là. J'ai l'impression qu'il joue quand même plus, quoi.
Après, c'est vraiment psychologiquement où il a eu du mal à se remettre. Mais c'est un très beau joueur. Hein,
c'est un joueur de classe, c'est sûr.
Qui a un style totalement différent, effectivement, de celui de Renato, mais qui est un très beau joueur également. Autre thème également concernant le LOSC, Gibo. Alors, il y a une info qui est sortie, hein, après la rencontre selon laquelle Paulo Fonseca et Olivier Létang auraient eu une discussion un peu tendue avant le match.
Ils l'ont eu, elle a été.
Alors, Paulo Fonseca, il a répondu à cela en conf d'après-match. C'est assez court, c'est assez bref, assez expéditif, mais peut-être que ça veut dire quelque chose.
Je suis ici pour parler des joueurs. Si nous avons un problème, nous devons parler à la maison.
Voilà, il y a tension entre Paulo Fonseca et
Olivier Létang.
Ils sont la salle en famille.
Mais c'est pas mal parce que en fait, ils s'embrouillent avant le match et ça donne une victoire. Alors est-ce qu'il y aurait eu victoire, ça n'avait pas eu embrouille. Ça, on ne le saura jamais.
Va pas encourager ça.
Mais non, mais en fait, il faut rappeler quelque chose de très important, c'est que Paulo Fonseca a été nommé par Alessandro Barnaba, qui est l'un des actionnaires de Merlin Partners, dont qui est propriétaire du LOSC. Et souvenez-vous, lors du premier mercato. Sylvain Armand, la veille de la clôture du mercato d'été, avait dit chez des confrères diffuseurs, avait dit bon bah c'est terminé pour le mercato. Et après le match, on dit à Paulo Fonseca, ben voilà, donc selon Sylvain Armand, le mercato est terminé. Ben dit non, moi j'attends encore deux joueurs. Et le lendemain, tu as eu André Gomes et Adam Ounas. Donc il y avait déjà eu
C'est-à-dire que les centres de décision sont pas forcément là où on pense qu'ils sont.
C'est des fois c'est un peu compliqué parce que tu par exemple Ismaili, on sait très bien qu'il était au Shakhtar, donc c'est Paulo Fonseca qui l'a fait venir. Voilà, je pense qu'il y a une vraie discussion entre Olivier Létang, mais il y a aussi le côté pour Olivier Létang de rendre des comptes aussi à Merlin Partners au niveau économique. Lui, ce qu'il veut, c'est redresser le club, parce que c'est vrai qu'il y avait des grosses difficultés après le passage de Gérard Lopez. Et donc lui par exemple sur le dernier mercato, et c'est là aussi l'un des éléments qui un petit peu déclenché, eh bien, cette mésentente avant le match de Rennes, c'est qu'il voulait absolument un latéral droit, et puis même un joueur offensif. Sauf que Olivier Létang n'est pas fan du mercato d'hiver. Il a dit clairement, Paulo Fonseca n'a pas eu de joueur pour se renforcer. Et c'est vrai que latéral droit pour être la doublure de Diakité, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui veut bien être numéro 2 pour finir une saison. Donc c'est vrai que voilà, et je pense qu'il y a aussi l'aspect économique. Au plus fait d'économie, Olivier Létang, au mieux c'est pour ses stats. Hein. C'est vrai que j'ai été au vœu du club. Bon bah voilà, c'est un aspect pour lui très important. Donc c'est vrai qu'il y a le côté sportif où Paulo Fonseca veut remplir la mission, parce que faut être clair. Hein, ils disent oui, on veut faire la meilleure saison possible. Non, ils veulent être européens. S'ils sont pas européens, ça serait une déception et surtout un objectif raté. Donc ils en sont pas loin. Puis cette frustration, vous le voyez à chaque fois que Lille, est aux portes de faire la bascule, ils n'y arrivent jamais. Ils n'arrivent jamais à basculer dans le top 5 depuis le début de saison. Voilà, donc on sent qu'il y a un peu de tension. Il y a aussi il y a eu quelques petits reproches en interne sur le nombre de blessés. À un moment, il y avait une liste assez importante. Hein. Bon, là, ça va un petit peu mieux. Il y a Ounas, mais à un moment, il y avait une liste. C'était Bamba, André Gomes, Ounas, Ismaili. Ça, c'était il y a 10 jours. Jonas Martin. Voilà, le jeu aussi de Paulo Fonseca demande beaucoup d'énergie aux joueurs. Et il y a un peu de casse de temps en temps. Donc, il y a aussi un peu de ouais, tension à plein niveau. Alors, mais voilà, mais le jeu de Lille est intéressant. Lille n'est pas mort et Lille peut encore faire des choses vraiment très intéressant sur la suite de cette saison.
Oui, c'est pas le.
Vas-y, non, ce qui est intéressant, Gibo, c'est quand même toujours l'attitude des dirigeants. Létang fait du bon boulot, là-dessus, il n'y a rien à dire, mais ce côté interventionniste qui a déjà été souligné par d'autres coachs, il doit être quand même pointé du doigt. C'est-à-dire que tu as des présidents plus ou moins interventionnistes, lui en fait partie, parfois à mauvais escient. Sylvain Armand aussi, on s'en souvient sur ses descentes près des arbitres. Moi, je pense que les dirigeants devraient, déjà par rapport à leurs propres joueurs, par rapport aux supporters, avoir parfois une attitude plus responsable. Là, c'est encore différent. Mais je pense que pour un coach, c'est particulièrement compliqué, et surtout que ça se passe bien. Parce qu'après, il peut y avoir des moments plus compliqués, mais même quand ça se passe mal, d'être toujours un peu collé comme ça par un président qui a une forte envie de communiquer et qui a une forte envie d'être un peu le calife à la place du calife, quoi, d'être celui à travers qui tout passe médiatiquement et sportivement. Donc je peux comprendre que pour un coach...
Il veut tout contrôler, c'est son gros défaut.
Oui, ouais, je pense que je sais pas si ça évoluera, parce que finalement c'est un jeune dirigeant, Létang, qui a déjà fait plein de choses. Et moi, on l'a déjà eu ici, on a déjà parlé de plein de choses hyper positives, y compris sur le travail, le recrutement, etc. Dans les différents clubs où il est passé. Mais en l'occurrence, je pense que ça, c'est quand même un des défauts majeurs, ou que ce soit en France ou ailleurs, des dirigeants, et à Lille notamment, puisque ça a déjà été montré et pointé du doigt. Et je pense que Fonseca, qui s'est quand même imposé à la vitesse grand V, qui a réussi à très très vite mettre en place un jeu différent, un état d'esprit différent, c'est pas simple. Donc c'est vrai que d'être un peu... je peux comprendre que l'entraîneur ait besoin d'espace vital.
En tout cas, ce serait dommage que cette embrouille devienne une vraie affaire, parce que d'abord, je pense qu'Olivier Létang est un président qui connaît bien son domaine, le foot, il sait où il veut emmener un club, il a l'exigence nécessaire qui est utile dans un club de foot. Et je ne crois pas qu'il ait déjà eu un entraîneur du niveau de Fonseca. Donc ce serait dommage qu'il se brouille avec lui et que Fonseca ne veuille plus travailler avec Olivier Létang.
J'ai l'impression que l'abcès était crevé quelque part avant Rennes, parce que c'était beaucoup de frustration.
Je l'espère, parce que j'imagine...
Il y a un élément quand même, je parle sous ton contrôle également, Gibault, mais le fait que Fonseca sente qu'il a le groupe et les joueurs avec lui fait qu'il n'a pas envie de partir non plus.
Oui, bien sûr.
Là, comme dirait l'autre, ils se sont dit les choses.
Les joueurs, c'est pour ça, quand Olivier Létang veut intervenir devant le vestiaire, je peux comprendre que l'entraîneur n'ait pas vraiment envie. Après, si l'entraîneur est d'accord, je vois pas non plus pourquoi ce serait forcément quelque chose à pas faire.
T'as pas été prévenu.
S'il a pas été prévenu, c'est ça en fait, c'est s'entendre sur le fait de faire ou pas faire. Mais que le président intervienne pour rappeler les objectifs du club ou pour se dire 2-3 trucs, pourquoi pas? Surtout quand c'est un président qui en plus connaît vraiment le terrain parce qu'il y a été. Donc il y a pas de raison que ça se fasse pas. Mais il faut que ça fasse en bonne entente et pas que ça termine en éventuelle embrouille. Parce que je le répète, Lille a un super coach et ce serait vraiment dommage de le perdre, quoi.
Puis Daniel, tu l'as répété plein de fois, je t'ai entendu par rapport à Nice, quand tu vois le nombre de matchs où ça joue bien, où tu as perdu notamment contre Lyon, contre Nice.
Ouais.
Ça aussi, ça, je peux te dire que tu le sens à travers Fonseca et même Olivier Létang, ils font le boulot. Mais
au bout d'un moment, ça peut taper sur les nerfs.
C'est clair. Et ça joue énormément sur la tension
calme, hein.
qui était présente ces dernières semaines.
Ouais, c'est ça.
Gibo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rentre bien.
Un grand plaisir.
Merci, à très vite. Gibo, bisous, Gibo. Voilà, je vous rappelle, ce 8e de finale de Coupe de France, 18h15, ce sera mercredi entre Lille et Lyon. On l'évoquera l'OL tout à l'heure. Supporter de Lyon, on vous attend en 32-16. Dans quelques instants, avis tranché de Daniel sur Christophe Galtier, les déclats de Galtier sur Messi, sur le jeu du Paris Saint-Germain après la victoire contre Toulouse, supporter du PSG. On vous attend en 32-16. Il y a pas mal d'infos d'ailleurs qui concernent le Paris Saint-Germain. Et puis on évoquera l'Olympique Lyonnais. On écoutera Laurent Blanc et Alexandre Lacazette qui étaient en conférence de presse aujourd'hui du côté de Lyon. Nous, on vous dit à tout de suite avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo. On vous attend en 32-16.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. RMC.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
On disait, ça serait pas mal de voir l'effectif et avoir une autre flèche à son arc.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Villas.
Et Florent Gautreau, Daniel Riolo, on est ensemble jusqu'à minuit comme chaque soir. Je vous rappelle que on est à J-2 des huitièmes de finale de Coupe de France avec notamment mercredi 21h10 coup d'envoi de Marseille-Paris Saint-Germain. Et à J-2 de ce choc, RMC vous offre les toutes dernières places pour cette magnifique affiche dès que ce son retentit. Vous avez 5 minutes pour tenter de remporter vos places pour ce OMPG en envoyant foot au 7-32-16. Voilà, dès que vous l'entendez, ça peut tomber n'importe quand dans la journée, donc restez branchés sur RMC pour tenter de gagner vos places pour assister à OM Paris Saint-Germain. Et ça tombera avant minuit. Voilà, sachez-le, il y en a un qui a gagné tout à l'heure, deux places dans Rotten sans flamme déjà aujourd'hui. Peut-être que ça tombera tout à l'heure. En tout cas, vous aurez 5 minutes pour tenter de jouer tout à l'heure. On revient sur ce OM-PSG, mercredi 21h10, donc ce 8e de finale de Coupe de France. Marseille qui vient de s'incliner en championnat. Le PSG qui a battu Toulouse dans la douleur, sans Mbappé ni Neymar. Et après le match, Christophe Galtier a expliqué son plan de jeu en conf de presse. Écoutez-le.
Allez, écoutez. Je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon et après de créer du mouvement parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu, il a le sens du dribble, le sens de la passe. Moi, je vais rien vous apprendre. Il a le sens du but.
Voilà, une déclaration qui a pas mal fait parler et on a justement un avis tranché de Daniel là-dessus.
11 fois 14.
114.
Non, 154.
Alors Daniel, t'avais envie de réagir à cette explication de Galtier après le match contre Toulouse.
Mais c'est tellement simple en fait. C'est tellement simple. Tout ça pour ça depuis le début de la saison.
On s'emmerde.
On a eu un recrutement extraordinaire, puis catastrophique, parce que Campos a dit les deux choses en un mois. On a une masse salariale intergalactique qu'aucun club n'a depuis des années. Les salaires sont incroyables sur des joueurs fantastiques, des stars. On a eu une révolution, la révolution du duo Campos-Galtier de l'été dernier. Les autres étaient tous nuls avant Galtier. Il suffisait de presque rien. Un coach français, pour qu'on n'y avait pas pensé avant, pour avoir des vrais choix tactiques. Un 3-5-2 qui a fait couler tellement d'encre. Un 3-4-3, puis un losange. La M&M, le trio magique. On a eu un duo de vedettes qui continue de faire pipi sur la tête de tous les PSG, que c'est stupide, qui claironne sur Twitter. On a tout. On est à 8 jours de PSG Bayern. Pour se rendre compte finalement qu'au moment de la grande échéance, le foot c'est tout simple. On joue pour Messi, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais une équipe de porte-flingue pour Messi. Bon alors maintenant moi je veux savoir qui vont être les porte-flingues. Parce que quand tu fais ça pour l'Argentine et tout, il n'y a pas de problème. Je comprends la mentalité, tu vois, c'est parfaitement compréhensible. Mais là donc, t'as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à on joue pour Messi. Mais alors quand? Dans quel match? Où? Dans quelle compétition? Et ça va marcher aussi quand les deux autres vont être là? C'était quoi? C'était juste pour le match de samedi? Ou c'était pour les matchs à venir? Mbappé et Neymar aussi, ils vont jouer pour Messi, ils vont être déchargés des courses et du travail? J'ai pas compris en fait ce qu'il y avait derrière cette phrase-là. Parce que si c'est aussi simple que ça, Eh ben, ok, vas-y, roule. Monte ton équipe, tout pour Messi, prolonge-le. Et puis en fait, il n'y a pas besoin de tout ce cirque au PSG. Hein. Pas besoin, arrêtez les recrutements, mettez trois milieux de terrain défensifs. Enfin, il n'y a qu'à copier l'Argentine. Ils ont été champions du monde. Copier les Argentins, si réellement on croit que c'est comme ça que ça joue au football, qu'on m'explique juste dans quel club ça fonctionne vraiment comme ça. Dans quel club on a gagné la Ligue des Champions en disant on joue tous sur un homme. C'est bouche bée, je sais pas c'est quoi les expressions. Je suis bouche bée, les bras m'en tombent. T'en as d'autres ou pas?
Les bras ballants,
si tu veux. Moi, j'avais noté quand même ces dernières semaines que Christophe Galtier était très, très, très fatigué. Il a pris 10 ans depuis qu'il est arrivé au PSG.
Non, mais là, pour rebondir sur ce que tu dis, là, c'est que tu ne fais pas provoquer. Il dit ça parce qu'il n'a pas payé Neymar,
il est tout près du burn-out.
Moi, je me mets à la place des deux.
T'as travaillé pendant 6 mois, 7 mois. T'as du renfort au milieu de terrain, t'as ce que tu veux, une masse salariale de malade mental, et à l'arrivée, l'issue, c'est on fait et on travaille pour Messi. C'est désespérant. Ce club est désespérant.
Le problème, c'est que
32-16, hein, j'ai pas entendu PSG.
Jusqu'à Noël, tout allait bien. C'est un peu le principe du jusqu'ici tout va bien. Tout allait bien
Tu sais, au PSG, c'est toujours au mois de février que ça commence. Oui, tout allait bien.
Pour Galtier, globalement, il arrive à s'en sortir puisque même en faisant jouer les trois devant ensemble, même avec ce déséquilibre-là, comme c'était que la Ligue 1, ça passait. Comme c'était que les poules, ça passait. Donc, il s'en est plutôt bien tiré.
Aperçu contre Benfica, c'est compliqué.
Oui, mais il s'en est bien tiré parce que médiatiquement et dans sa com, il était, comme tu disais, encore en forme. Tu vois, il a réussi à jongler en disant, il pouvait dire aussi, je suis en train de préparer. Tu sais, il avait dit, j'ai plusieurs systèmes, on est en train de tester, et le 3 derrière, et le 4 derrière. OK. Et puis, en fait, on savait déjà à l'époque que son gros problème, c'est de ne pas savoir dire non aux trois de devant, de pas savoir les sortir, de pas pouvoir le faire, mais ça s'était pas vraiment présenté. Et là, il a le moment où Mbappé et Neymar sont pas là, et là il fait ce qui est là pour le coup une erreur de communication, une faute de communication, puisqu'il te sort un truc qui d'abord tactiquement est terrible pour un coach, parce que c'est-à-dire que de toutes les systèmes, de toutes les possibilités tactiques que t'as, le seul truc que tu peux avoir, c'est un coach de DH qui dit bah, on a José qui est notre top player, on va tout jouer pour José, attends, on a le meilleur joueur de mec, on va pas s'emmerder la vie. J'ai été au PSG. En fait, après avoir caché sous des tonnes de conférences de presse qu'on est en train de travailler différents systèmes pour... Non, en fait, lui-même se dit, bah, en gros, j'ai les mecs qui sont bons devant, je peux pas faire autrement que de les laisser et de leur donner le ballon et qu'ils défendent pas. Sauf que comme ils étaient trois, tu pouvais pas dire effectivement.
Bah, ils voulaient pas choisir Alain, et Malo, c'est les, voilà.
Là, c'était plus simple. Il y avait pas les deux autres, il fait ça. Sauf qu'évidemment, ça n'est pas tenable puisque quand les deux autres vont revenir, comment tu dis? Est-ce qu'il va dire, eh ben, Neymar, Mbappé, Messi, on joue pour eux, c'est nos stars? Bah non, il pourra pas le dire, même si c'est un petit peu le cas. Donc, en gros, le problème, c'est que Galtier, qui était pour le coup aussi un bon communicant quand il était dans ses clubs précédents, bah là il est pris dans la machine infernale.
Il est à la limite du burn-out comme tous les autres.
Et là il a dit n'importe quoi. Tu peux pas dire ça quand t'es au PSG. Sauf que comme il n'a pas eu les mains libres comme beaucoup d'autres coachs, mais lui en particulier, comme il n'a pas voulu montrer son autorité. On parlait de Tudor tout à l'heure. Évidemment, c'est pas du tout la même
situation. Il n'a pas les mains libres, mais néanmoins c'est le seul coach à qui on a posé cette question-là, les autres ne l'avaient jamais dit, et qui a dit, mais moi, de toute façon, je ne veux jamais les sortir. Parce que jusqu'au bout, ils sont capables de faire quelque chose. Là aussi, la réflexion du coach, l'intelligence tactique, elle a transpiré à ce moment-là. Genre, tu attends, même si le jeu de ton équipe est, c'est de la merde, parce que depuis,
depuis si Noël, un joueur n'est pas bon comme
pourri,
Neymar par moment.
Tu ne sors pas le mec, parce qu'il y a son statut, et à tout moment, il peut te sortir un truc. Voilà. Donc puis, même pas qu'on est au coach de DH là. Là c'est.
Non mais il a pas les mains libres. Moi j'ai pas souvenir. Et d'ailleurs au PSG d'entendre un entraîneur, dire publiquement avoir une telle relation avec son directeur sportif. C'est-à-dire qu'il le cite tout le temps, Luis Campos.
Absolument.
On prend les décisions avec le président Nasser Al Khelaifi, avec Luis Campos. Il y a une vraie cohésion entre les deux.
Il y a aussi un
directeur qui ne le subit pas.
Directeur sportif qui ne cache pas. Enfin, c'est pas son rôle officiel.
Non, il est conseiller sportif.
Il est directeur sportif à Retafe. C'est pas pareil.
Celta Vigo.
Ah bon, il est à Retafe.
Respecte la Galice, garçon.
Du coup, c'est ce que j'étais en train de dire. Conseiller sportif qui dit à qui veut bien l'entendre que Neymar il n'en voulait plus l'été dernier et que s'il avait pu s'en séparer, il s'en serait séparé.
Il l'avait dit, ouais, dans Rotten sans flamme en septembre. Enfin, il l'a dit, on l'a lu entre les lignes, quoi.
Et comment on sait que l'un des gros enjeux, on a parlé, ça a été un des axes de l'interview avec Walid Regragui la semaine dernière, pour un coach, c'est la gestion du vestiaire, d'une manière ou d'une autre. Et encore plus quand tu es dans un grand club, Regragui parlait de Ancelotti pour ça, hein, comme modèle. Quand il a parlé du ça fait beaucoup d'erreurs de com', hein, souvenez-vous du penalty gate. Penalty gate, il dit je vais sortir, je vais faire une décla, il fait une décla dans la journée ou la veille en disant oui, effectivement il y a eu une petite erreur, mais bam, penalty gate le soir même après avoir dit qu'un tel était premier,
enfin, c'est le bordel qui donnait l'impression que personne l'avait écouté. Ouais. Personne l'avait écouté.
Deuxième, le vice-capitaine, le capitaine.
Ah ouais,
Bim, même Gamel. Ouais. Oui, et donc la troisième, maintenant Neymar et Mbappé sont pas là, on joue tout pour Messi. Je vais te dire, dans n'importe quel club, si t'as, oui, mais c'est aussi toujours pareil, l'organisation du PSG. Est-ce que ces prises de parole sont prévues, travaillées, précisées? Parce que là, n'importe qui aurait pu lui dire sur le penalty. Attends, t'es sûr que ça va se passer comme ça? Sur les vice-capitaines, attention, parce que les mecs risquent de mal le prendre. Et puis là, pareil pour Mbappé, Neymar et pour les joueurs en général. Est-ce que tu penses que les joueurs, tous ceux du PSG qui ont un certain vécu au plus haut niveau, qu'est-ce que tu penses qu'ils pensent de leur coach quand ils entendent ça? Je pense que c'est pas bon.
Tu sais,
on va cuire les gars.
Vas-y. Fin juin, quand on disait à Neymar que c'est Galtier qui allait venir finalement, puisque Zidane n'avait pas voulu venir, il éclatait de rire.
Il disait Christophe
qui? Il disait qui? Donc le respect de Neymar, pardon, mais bon.
On accueille Grégory, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Grégory.
Bonsoir.
Ça va Grégory?
Bah oui.
Alors Max Standard m'a écrit un truc. Notre entraîneur, c'est Jean-Claude Duss. Sur un malentendu, ça peut marcher.
C'est ça, bien joué. Exactement. Bravo, c'est exactement ça.
Alors vas-y, développe.
Ben c'est un peu ça, quoi. C'est ben, pareil quand il dit je les laisse jusqu'au bout parce que on sait jamais ils peuvent marquer. Ben c'est un peu ça. Sur un malentendu, ça peut marcher. Alors c'est vrai que c'est un peu plus efficace que Jean-Claude Duss parce que ben, Jean-Claude Duss. Ça marche pas très fort avec lui.
Ouais, lui, ça marche jamais. Là, ça peut éventuellement quand même.
Voilà. Ça dépend sur qui on vise, quoi. Mais bon. C'est vrai que d'un point de vue autorité, Galtier, mais de toute façon, moi, je faisais partie de ceux qui disaient que je croyais pas vraiment Galtier en début d'année, avec toujours le on sait jamais sur un malentendu, on peut gagner. C'est toujours le petit truc qu'on rajoute quand on parle du PSG, c'est on dit ça, mais sur un malentendu on peut gagner, parce que c'est chaque année c'est ça. Mais depuis de toute façon depuis l'arrivée de Neymar, le PSG, il y a plus de collectif, on mise tout sur les individualités et effectivement ça marchait sur le Final Eight.
Ah oui, c'est vrai, quand t'as éliminé à la dernière minute l'énorme Atalanta et que t'as battu ensuite l'énorme Leipzig. Oui, bien sûr. Là Neymar, il a été fabuleux. Il faut lui être reconnaissant toute notre vie pour ça.
Voilà. Et je suis reconnaissant à Choupo-Moting, en tout cas sur ce match face à Atalanta. C'est un très gros match. Mais c'est vrai que c'est déprimant parce que face aux grosses équipes, face à l'OM, dernièrement, on n'est pas si bon que ça, alors qu'au début de l'RQSI, ben, on fracasse à chaque fois l'OM. Mm-hmm. Là, demain, moi, je suis assez inquiet. Bon, il y en a beaucoup qui s'en foutent parce qu'ils tankaient au match face au Bayern.
Demain, t'as besoin de t'inquiéter parce qu'ils ne jouent pas. Mais mercredi, tu peux t'inquiéter.
Que qui?
Non, mais il joue mercredi, en fait, voilà. T'as dit demain, mais c'est pas grave.
Ah oui, mercredi, pardon, oui. Oui, en fait, demain, je suis très confiant, demain, on perdra pas.
Demain, t'es bien.
Mais non, mais c'est vrai que c'est... En fait, comment on peut construire aucun collectif alors qu'on dépense chaque année des sommes hallucinantes en transfert? Les matchs, c'est d'une indigence incroyable. C'est... Non, mais c'est vraiment déprimant. Et bon, on sait plus quoi faire. Enfin, et je comprends pas comment Mbappé réagit pas. Est-ce qu'il va rester une année de plus? Que moi, franchement, je serais Mbappé, je pèterais un câble.
Ouais. Merci Grégory d'avoir été avec nous, en tout cas.
Ben.
Salut Grégory, bonne soirée.
Ça saute.
Bonne soirée.
Ouais, ça saute. Ouais, la ligne n'est pas ouf. Merci Grégory, bonne soirée à toi. À très vite, Grégory. Supporter du PSG, on vous attend au 32-16 avec Daniel, avec Flo également. Tiens, on reprendra également les déclarations de Luis Campos qui a confié que ça discutait en vue d'une prolongation de Messi, justement.
Ah oui.
Et on a pas mal d'informations également concernant le Paris Saint-Germain avant donc le 8e de finale de Coupe de France. Ce sera dans 2 jours face à Marseille. Je vous rappelle qu'il y a des places à gagner. Ça peut tomber n'importe quand. Des places pour Marseille-PSG. Vous envoyez foot au 7-32-16 dès que vous entendez le bruit. La musique de Van Halen, ça, voilà, il est là, Daniel Torres, sous la remise. C'est pourquoi, Daniel. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau, avec vous également au 32-16. On est à J-2 du 8e de finale de Coupe de France entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Avis tranché de Daniel qui revenait sur les déclarations de Christophe Galtier après le match face à Toulouse, où il disait qu'en gros il avait donné les clés des camions sur ce match-là face au TFC. Il l'avait donné à Lionel Messi. Vous avez vu que Luis Campos a parlé également concernant la prolongation de Messi qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Il a expliqué que ça discutait avec Lionel Messi. Tu as fait allusion tout à l'heure, Daniel, également aussi à ça.
Je me demande quand même s'ils vont pas laisser passer le huitième de finale ou si ça se passe mal, on va avoir une énième révolution parce que ça m'étonnerait que si ça se passe mal à nouveau en huitième de finale, tu gardes les mêmes hommes ou alors c'est vraiment. Je me dis qu'on peut toujours creuser quoi. Mais à un moment, t'arrives au centre de la terre quoi, tu peux plus creuser. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe quand tu creuses au plus profond, du plus profond, du plus profond. Enfin, quand à un moment, il va falloir quand même. Je veux bien désespérer, mais il y a bien une bonne décision qui va être prise dans ce club un jour ou l'autre. Bref, je pense qu'ils veulent laisser passer ce huitième et qu'après ils vont voir pour la prolongation de Messi. Parce que, en fait, je ne sais pas si c'est ce que je pense ou ce que je souhaite ou c'est ce qui va se passer. Si j'étais eux et si j'étais un peu habile, je ne ferais rien avant le huitième de finale.
Après, peut-être que Messi lui-même, il n'a pas envie de décider avant. Hein.
Pour ne pas éventuellement le froisser lui par rapport à ce qu'il veut et peut-être qu'il n'a pas exprimé réellement ce qu'il veut.
Ouais.
Si je suis éliminé et que donc la saison, il ne reste plus que le championnat, je me dis que ce n'est pas une bonne idée de le prolonger et donc je lui dis, nous n'allons pas te prolonger. Il fait la gueule la fin de saison et puis au revoir tout le monde, on se quitte comme on se quitte. J'espère que c'est la réflexion qui anime Campos et les dirigeants parisiens. Parce qu'aller le prolonger avant l'huitième, et pourquoi faire l'année prochaine ? Quelle est l'évolution du club si tu continues encore avec Neymar et encore avec Messi ? Qu'est-ce que tu veux ? À un moment, t'en auras vendu assez quand même des maillots en Chine et en Asie et aux États-Unis. C'est quoi le projet sportif ? Donc c'est aberrant. Est-ce que sur Terre, il peut y avoir quelqu'un qui connaît un peu le ballon pour me convaincre que c'est une bonne idée de prolonger Messi l'année prochaine. Je ne comprends pas. Je ne pourrais pas parler avec quelqu'un de sensé avec un cerveau normal qui me dit que c'est une bonne idée.
Flo.
Alors d'abord, je pense que s'il le prolonge, c'est pour pas seulement pour des raisons sportives. Donc là, on est dans la problématique du PSG.
Je sais bien, mais je ne parlais pas de ça.
Ouais. Bon, moi ça, voilà. Donc ça ne m'étonne pas entre guillemets qu'il veuille le prolonger. Après, c'est l'idée de ces prolongations comme ça, de manière chacun dans son couloir, c'est tellement ridicule. Il faut voir le projet d'ensemble. C'est-à-dire que si tu sais que tu continues avec Neymar et avec Mbappé, bah, tu ne prolonges pas Messi. Et si tu sais à l'inverse que tu ne vas pas prolonger avec Neymar, enfin que tu comptes t'en séparer, alors pourquoi pas à la limite. Mais si tu veux si tous les trois mois.
C'est que Neymar personne n'en veut. Hein. Mais il est encore sous contrat pendant longtemps.
Bien, hein. Je crois que c'est 2027.
Non, c'est donc donc une raison supplémentaire si tu sais que tu vas avoir du mal à te séparer de Neymar.
Encore comme maintenant l'Arabie Saoudite.
De ne pas prolonger Messi effectivement dès ce moment-là. Donc oui en plus il y a sans doute des projets quand même qui peuvent l'intéresser du moins financièrement. Donc le problème au Paris Saint-Germain, c'est effectivement comment tu construis la réflexion globale. Comme ils n'avaient pas construit la réflexion globale, ils ont été obligés d'aller rattraper par la manche Mbappé parce qu'au départ, ils n'avaient pas spécialement fait leur projet autour de lui. Et maintenant, ils se retrouvent avec trois joueurs, au moins un de trop, probablement. Et il est évident que sportivement, il ne faut pas prolonger Messi.
Mbappé, dès le début de la saison, quand il a vu, donc après le 31 août, quand tout a été fini, il le disait, les gens autour de lui le disaient, il était extrêmement déçu et il a tout de suite dit, avec cette équipe-là, nous, une nouvelle fois, nous ne serons pas un prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Même si le panorama des équipes dites fortes en Europe n'est pas reluisant en ce moment, celui du PSG est d'état de forme et pas fringant du tout, mais Mbappé, lui, était convaincu comme nous finalement, alors que lui, il est à l'intérieur et il le disait, avec cette équipe-là, on ne pourra pas aller au bout, une fois de plus, on n'est pas prétendant.
On accueille Lassana, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Lassana.
Salut les gars, ça va ?
Bah et toi alors Lassana ?
Ça va, c'est cool, c'est cool.
Tu voulais réagir à l'avis de Daniel ?
Au propos de Daniel, un petit peu déjà. Ouais, Daniel, comme souvent, c'est dommage, tu caricatures un petit peu. Pourtant, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Par rapport à la déclaration de Galtier, je suis d'accord avec toi, c'est une grosse faute de com'. on sait tous que s'il y a Mbappé et Neymar, il dit jamais ce qu'il a dit là. Quand il y a Mbappé et Neymar, il n'y a pas de plan de jeu, c'est vrai, mais il ne se permet jamais de dire ce qu'il a dit là. Donc, réduire tout ce que PSG ont fait c'était à on joue tous pour Messi, tu sais très bien que c'est pas une réalité. Après, là où je te rejoins complètement, c'est sur le cas Messi. Le cas Messi, c'est une aberration de vouloir le prolonger ou même y penser, je comprends pas du tout. Après, comme tu dis, c'est comme a dit Flo, encore une fois, ça dépasse le sportif.
On s'en fout. Toi, tu supportes le club. T'as envie de quoi? T'as pas envie à un moment que l'équipe elle ressemble à quelque chose, qu'on aille recruter des vrais milieux de terrain?
Je suis comme toi. Mais si tu regardes Campos, il a les mains liées. Il arrive dans un PSG où il y a pas d'argent. Il peut même pas donner d'argent en salaire. Alors qu'on sait qu'à Paris, pour venir, faut allonger les salaires. Moi, j'aurais aimé Campos.
Et les salaires, il y a personne qui donne autant de salaires que le PSG dans le monde.
Ouais, mais là, tu peux plus donner vu qu'avec les salaires de Messi, Mbappé, Neymar, t'as plus d'argent à donner en salaire limite.
Il n'y a pas que Messi, Mbappé, Neymar. Ouais, c'est-à-dire, juste la Sana. Ils ont une problématique avec le fair play financier. Tout à l'heure, on évoquait, Icardi.
Ouais, il y a tous les mecs.
Il y a tous les mecs traités, à qui paye le salaire. Draxler, il paye le salaire. Navas, il paye le salaire.
Non, tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais tout ça, c'est pas Campos. Parce que là, t'es en train de faire aussi passer Campos pour un culotte. Alors que Campos, quand même, pour moi, il a de bonnes idées, mais il a pas.
Au PSG, il a eu quoi comme bonnes idées,
Franchement, déjà, moi, quand il va chercher Sanchez, c'est un mec qui est cramé physiquement, mais sinon, dans le profil de ce que Paris avait besoin, ça colle exactement ce qu'on avait besoin au milieu de terrain. Maintenant, c'est dommage, le Paris l'a pas pris, parce que Sanchez, il n'arrive pas à jouer. C'est une vérité, ça. Mais quand tu regardes Paris, ils allaient chercher que des techniciens, il vient, il ramène un mec qui doit ramener du muscle. Il voulait Fofana à la base. À la base, il voulait Fofana. Fofana, t'as pas les sous pour le faire. Tu vas faire Sanchez, tu te dis, c'est un Fofana peut-être moins cher. Au final, ça prend pas. Après, regarde ce qu'il veut faire pour l'année prochaine. Aller chercher un Bernardo Silva. Moi, je suis sûr que si tu lui laisses les coups des franches, Messi, Neymar, ils s'en débarrassent. Mais à Paris, le problème, c'est qu'il arrive, il a plein de boulot aussi.
Ça, là-dessus, je te rejoins. Là-dessus, je suis d'accord avec toi.
Il a les boules aussi. Il essaye de faire au mieux. Avec les Paredes, Draxler, tout ça qui vont revenir. Comment tu veux qu'il s'en sorte, en fait? C'est ça le truc. Gatier, il a pas les épaules, on est d'accord. Mais Campos, venir lui tomber dessus, comme je vois partout, pour moi, non, c'est pas lui. Il fait avec ce qu'il peut. Il a moins que tout le monde, mais on a attendu plus que des autres. T'es d'accord avec moi ou pas là-dessus?
Ouais, c'est ça qui doit ranger la maison, hein. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en septembre chez Rotten. Hein.
Le problème, c'est comment tu veux la ranger.
Tu vires tout. Franchement, je sais pas si c'est réalisable. Mais tous ces mecs-là, je casse leur contrat. Même si j'ai plus d'argent pour les transferts, je casse leur contrat. Et je repars avec moi, un groupe. Parce que cette année, c'est ce qu'ils ont fait. Ça fait plaisir, ils font jouer les jeunes. Moi, quand je vois Paris, le seul truc qui me fait kiffer cette année, c'est voir jouer les Titi.
Ouais, mais la Sana, le PSG, c'est pas une équipe qui va faire jouer son centre de formation quand même.
Mais si tu repars avec, on va dire, tu repars avec 17-18 joueurs confirmés et tu fais jouer des, et tu complètes avec 5 Titi. Tu sais que t'as pas l'argent pour avoir une méga.
Mais moi, je comprends pas ça, tu vois, Daniel. Moi, je vois tous les gros clubs en Europe, ils font tous jouer des mecs qui sont formés. Hein. T'en as 3-4 en équipe première. Hein.
Le
Real, on a tendance à dire. Le Real, c'est le club.
Font jouer qui, le Real?
Le Real, t'as les Nacho, tous ces gars-là, les Carvajal, c'est des mecs qui sont formés au club. Certains bourlingués sont revenus. On a souvent tendance à caricaturer le Real comme un club qui ne forme pas. C'est le centre de formation qui a dégagé le plus
d'oseille. Alors, installe-les véritablement et mets surtout des vrais cadres très solides.
La
Sana a raison sur un point, et on le souligne pas assez, et c'est finalement, avec les absences des uns et des autres, l'un des bons côtés de la saison du PSG, c'est que les supporters s'attachent effectivement à ces jeunes-là qui, à chaque fois, eux, ont montré la bonne attitude et aussi le fait que tu avais aussi des réserves, un réservoir pour, effectivement, pas en faire un 11 titulaire, mais pour les voir plus. Il y a un truc qui se passe autour de ces jeunes que tu vois quand tu discutes avec les supporters du PSG, parce que les supporters du PSG, aujourd'hui, il a besoin d'être fier de quelque chose. Tu vois, il n'est pas suffisamment fier de son équipe.
Aussi. Il a besoin
et donc, il s'est dit au moins, je suis fier d'avoir vu ce gamin faire ça. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est terrible, parce que de se dire que tu as du mal à te satisfaire de certaines victoires ou même de cette première place provisoire là en Ligue 1, parce que vraiment, en termes de jeu, c'est pas suffisant, en termes d'attitude, c'est pas suffisant, les gars qui vont pas saluer le public, les Messi, Neymar, c'est pas possible. Donc quand les gars voient...
Il y a beaucoup de supporters du PSG qui n'ont rien à redire à ça.
Non mais quand tu parles que de cela, mais il y a aussi ceux qui vivent mal une partie du projet actuel, qui vivent mal le fait de mal gagner.
Le problème c'est qu'on entend...
Mais ils sont là,
Daniel. Le problème c'est qu'on entend beaucoup trop les ignorants sur les réseaux sociaux, et le problème c'est que le club base sa réflexion sur ce qui se passe sur les réseaux. Et ouais, sur les réseaux, il n'y a pas d'avis fort sur le fait que Neymar et Messi ne saluent pas le public, ce qui est un scandale. Il n'y a rien, il n'y a pas réellement de critique. Parce que, comme ils ont créé plein de sites, là, tu sais, les sites à la con, les comptes à la con qu'il y a sur Twitter, avec, qui sont avec des fans entre 15 et 25 ans, qui eux ne comprennent rien. C'est à peine s'ils regardent le match en entier. Une victoire contre Toulouse.
C'est pas ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'eux se disent, des dirigeants du PSG, tu te dis, bon, ok, ils vont pas les saluer, mais combien de maillots des deux on vend à la fin de l'année?
C'est ça.
Tout ça qui
c'est
compte.
Ça. Mais bien sûr que c'est ça.
Enfin, qui compte aussi, finalement. Lassana, merci d'avoir été avec nous.
C'est cool, merci
Lassana.
Merci Lassana, prends soin de toi, à bientôt. Tiens, petit message sur Direct Studio également, qui va dans le sens de ce que Lassana disait. Pierre, qui écrit, pour moi, il faut repartir d'une feuille blanche en créant une vraie cohésion d'équipe. Il faut garder un joueur par ligne et repartir de zéro. Voilà, c'est peut-être un peu drastique, mais pourquoi pas.
Ça va être en gros le discours qui va être tenu si tu te fais sortir par le Bayern. Là, il paraît que l'année dernière c'était une révolution. Là,
Ouais, mais après, faut se débarrasser des joueurs, comme tu dis. Ceux qui ont des gros contrats.
Il paraît que c'est l'été dernier qu'ils avaient pris Antero pour dégraisser. Il a rien dégraissé du tout.
Quelques infos qui concernent le PSG. Neymar qui donc a fêté ses 31 ans hier. Alors, qui était gêné aux adducteurs, a repris l'entraînement aujourd'hui. Idem pour Ramos. On rappelle également que il y a le retour de suspension de Verratti pour le match face à l'OM, hein, bien sûr. Mbappé et Renato Sanchez, eux, sont forfaits. Neymar qui a remporté son 6e Samba d'or. Alors, quel trophée de Samba foot du meilleur joueur brésilien qui évolue en Europe. Alors, cela dit, il est un peu vache parce qu'il a remporté, l'annonce devait être faite le 15 février. Le mec a balancé ça sur les réseaux. Donc, en gros, il a spoilé Samba foot qu'on embrasse.
Ah ouais, bah, dis donc, un peu vache Neymar. Vraiment, c'est...
Petite bourse, je sais pas si vous avez vu ça.
Vinicius qui marque le but en finale des Ligue des Champions, il méritait pas quelque chose.
Vinicius, Casemiro, tu vois, tu connais
pas. Il méritait pas lui le Samba d'or.
Après, c'est un collectif qui vote avec les internautes, etc. C'est pas eux qui choisissent.
Ouais,
petite bourde du community manager de Donnarumma. C'est marrant, ça. Alors, le CM de Donnarumma, c'est celui de Mathis De Ligt. Alors, il a publié une photo du joueur du Bayern avec la légende 3 points dans la poche après la victoire du Bayern ce week-end, mais il a fait ça sur le compte de Donnarumma. Donc, c'est quand même assez con, sachant qu'il va y avoir la confrontation dans 8 jours entre les deux équipes. Bon, il a supprimé le tweet, hein, quand il s'est rendu compte du truc, mais c'est assez marrant quand même. Et puis, autre info également.
Le CM de Donnarumma, il a les mains comme Donnarumma.
Il a les gants de Donnarumma, ouais.
Non, il a les pieds.
Il est CM de Donnarumma et de De Ligt en même temps. C'est quoi,
c'est... Après, c'est un boulot, hein.
Ouais.
C'est des mecs, c'est des boîtes de com.
Ouais, bah oui.
Et les supporters parisiens qui sont interdits de déplacement à Marseille pour le match de mercredi sur ordre de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est l'info qu'on a pris également aujourd'hui. Supporters de l'OL, on vous attend au 32-16 avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau. On va évoquer l'OM qui jouera son 8e de finale de Coupe de France. Ce sera face à Lille. Ce sera mercredi à 18h15 sur RMC. On écoutera Laurent Blanc et Alexandre Lacazette qui est en conférence de presse aujourd'hui. Et puis je vous rappelle également que vous pouvez gagner des places pour assister à Marseille PSG, le 8e de finale de Coupe de France. Dès que vous entendez le son Van Halen, que Daniel Torres nous a calé, vous aurez 5 minutes pour gagner des places pour assister au match. Je vous enverrai foot au 7-32-16. Je pense que ça va pas tarder à tomber. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas
et Flo Gautreau et Daniel Riolo avec vous également sur l'application Direct Studio. Il y a beaucoup de réactions d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir sur le Paris Saint-Germain, notamment sur Neymar, sur Messi, sur Mbappé, sur l'application Direct Studio. Il y a notamment Kali qui écrit « Ça coûte cher, les grands noms, sans forcément de grands résultats. On l'a vu dans le passé, collectif, le foot est un sport collectif avant d'être des exploits individuels. » Et Fofo qui Follow qui écrit « Déjà, tu laisses partir libre Messi, Ramos, tu économises de gros salaires et tu payes le reste du contrat à Neymar pour le dégager et tu repars sur de bonne base. » Voilà, ils ont tous leur solution. Ils sont tous en mode football manager sur Direct Studio. Mercredi, Lyon-Lille. On a évoqué Lille tout à l'heure avec Jean Baumel. Hein, match de Coupe de France, 8e de finale. Ce sera 18h15 à suivre et à vivre sur RMC. L'OL qui est sur un bon mood en ce moment. Victoire à 3 ce week-end. 3 victoires en 4 matchs pour l'OL.
On est petit. Donc ouais. Il leur manque une référence, quelque chose qui pourrait redonner un petit peu de vie à ce club. Qui pourrait, je sais pas, transformer la victoire contre Lille, donc une très bonne équipe du championnat, transformer cette victoire en objectif. Genre derrière, et pourquoi pas la Coupe de France. C'est la fameuse phrase, et pourquoi pas.
Comment ça a daté le dernier titre de l'OL aussi, hein, mine de, hein. Ça fait 10 ans.
2012.
Ouais, ça fait 10, enfin 11 d'ailleurs maintenant, mais ça commence à dater là aussi, hein. Marseille et Lyon là qui commencent.
Donc il y a ce test là contre Lille. Après effectivement, ça marchait pour Lille tout à l'heure, donc on peut le dire pour Lyon. Derrière l'OM et le PSG, un des deux va tomber. Donc tu pourrais te mettre à espérer à quelque chose d'un petit peu plus beau. Et pour Lyon, forcément, au vu de la saison et de tout ce qui s'est passé, des critiques permanentes sur ce club, que d'un coup il se passe quelque chose d'un petit peu excitant dans la fin de saison, eh ben, ça pourrait être plutôt pas mal.
Tu trouves qu'il y a du mieux à Lyon, toi aussi, ou pas?
Alors moi, je suis très très critique avec Lyon, et je reconnais que si, sur le match qui m'a paru le plus important contre Troyes, c'est que j'ai vu une équipe qui courait beaucoup plus. C'est-à-dire que qui se procure des occasions, on l'avait dit au match d'avant, ils s'en sont déjà procurés dans des matchs, ils ont déjà eu ce genre de scénario où ils avaient beaucoup de tirs, mais pas d'efficacité. Bon, c'est un problème, c'est sûr. Mais déjà là, dans ce match-là, il y a eu plus de courses, plus d'intensité, plus d'envie, mais aussi parce que Blanc, un peu par hasard, mais tant mieux, a décidé de pousser Barcola plus titulaire, alors que Barcola, ça fait des semaines, pas que Blanc d'ailleurs, hein, même avant même du temps de boss, mais qu'on souhaitait le voir plus souvent. Et c'est ce genre de joueurs aussi, puisque tu parlais des jeunes au PSG, c'est aussi ce genre de joueurs qui sont un peu l'ADN lyonnais, plus que finalement le retour des anciens, tu vois. Donc il y a des choses comme ça, avec des joueurs qui montrent l'exemple, et à l'inverse, toujours des joueurs et toujours des changements qu'on ne comprend pas. Parce que là, ça se passe bien, parce qu'effectivement, c'est trois, sans manquer de respect, mais t'as quand même un moment donné où, je crois que c'est après le deuxième but lyonnais, les trois changements de Blanc sont quand même super curieux, et notamment l'entrée à nouveau fantomatique d'Aouar, qui lui, pour le coup, ne se met absolument pas dans ce nouveau style où il faut courir. Donc, moi, je suis toujours pas convaincu par Blanc, puisque je l'ai dit dès le départ, avant même presque son premier match, et après deux ou trois pareils. Je pense qu'il surfe toujours sur deux, trois trucs. Par exemple, le truc Barcola, c'est un peu un coup de bol. Il l'a mis en coupe, ça marche bien, tout le monde l'encense.
C'est un entraîneur du passé.
C'est un entraîneur du passé, c'est sûr.
Mais un entraîneur passif.
Ouais. Ça c'est sûr, mais en revanche, si l'état d'esprit change et que ce qu'on a vu par exemple contre Troyes en termes de course, puisque vraiment c'était ce qui était flagrant avant avec Lyon, change un peu, ma foi, après, comme beaucoup d'effectifs là dont on a parlé, ils ont aussi des joueurs de qualité, ils ont un peu recruté, on va voir aussi ce que donne leur recrue. Je crois qu'il est blessé,
le
là, Jeff Mignot, il est blessé, ouais, non, il me semble.
Trois semaines, je crois.
Mais donc on les verra.
Jeff,
donc, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé dans ce match contre Troyes, c'est pas les changements de Blanc, c'est pas Aouar que, voilà, pour lequel c'est terminé, mais en revanche, c'est que les gars faisaient les efforts, mettaient de l'intensité, un peu de pressing, il y avait un peu ce qu'on n'avait pas vu jusque-là.
Alors Lyon qui reste encore loin des places européennes en Ligue 1.
T'as raison, oui. Juste sur un truc, sur oui. Le Lille-Lyon là. Effectivement, dans les deux cas, sont deux équipes qui, encore plus pour Lyon, vont avoir du mal à accrocher le podium. Même Lille, je veux dire, parce qu'il y a du monde.
Ils sont 9e à 8 points de Rennes, hein, et de la 5e place.
Donc eux, c'est clair. Donc c'est vrai que la coupe, pour Lille comme pour Lyon, et encore plus pour Lyon, ça doit être un objectif.
Bah justement, la Coupe de France n'était pas le moyen le plus rapide pour Lyon d'atteindre l'Europe. Question posée aujourd'hui à Alexandre Lacazette et Laurent Blanc qui étaient en conférence de presse.
On le sait, au fond de nos têtes, on sait que si on gagne la Coupe de France, on serait qualifié pour la Coupe d'Europe, mais faut pas aller trop vite, faut déjà penser à gagner ce match qui va être très compliqué, comme j'ai dit, contre une très bonne équipe, et ensuite on peut penser à la gagner, mais on sait que pour gagner, pour aller étape par étape.
Elle est toujours importante pour tous les clubs, on le sait, c'est le chemin le plus court pour aller à l'Europe. C'est une formule que l'on connaît depuis très très longtemps. C'est une formule vraie, mais si vous prenez les gagnants de la Coupe de France, par exemple, sur les 10 ou 15 dernières années, vous apercevez qu'il y a une équipe qui l'a gagné beaucoup. Vous voyez de qui je veux parler, par exemple.
La réaction d'Alexandre Lacazette et de Laurent Blanc, bah ouais, forcément, le moyen le plus rapide pour Lyon maintenant d'atteindre l'Europe, c'est justement cette Coupe de France. Vous l'avez reconnu, c'est le moment. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour emporter vos places, pour assister à Marseille-Paris-Saint-Germain. Ce sera mercredi au Stade Vélodrome, 8e de finale de Coupe de France. Vous envoyez foot à partir de maintenant au 7-32-16. Foot, F-O-O-T, au bout de ne saurait pas l'écrire. Au 7-32-16 pour emporter des places, pour assister au 8e de finale de Coupe de France. Bonne chance à vous. Merci toi Daniel Torres qui est l'artiste du là. On va accueillir Pierre, tiens, supporter de l'OL qui nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Pierre.
Salut Nico, bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Salut.
Salut.
Alors Pierre, comment tu la sens comment tu sens ce match déjà face au LOSC qui, c'est vrai, Daniel le disait tout à l'heure, sur le papier déjà est plutôt sexy. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que finalement tu mises tout sur la Coupe de France pour espérer retrouver l'Europe l'année prochaine?
Je t'avoue que cette année, même si on gagne quelques matchs depuis, pas longtemps en fait, on a gagné le dernier match. Non, franchement, il n'y a rien de rassurant. Ce qui peut être bon, c'est qu'en effet, Monaco est déjà éliminé, que Paris et Marseille se rencontrent, donc ça fera un deuxième gros éliminé. Et nous, on a la chance, entre guillemets, de recevoir une grosse équipe. Donc si on n'arrive pas à battre Lille, bah, le problème, il est réglé, quoi. C'est qu'on mérite vraiment rien.
Par contre, si on arrive à gagner contre Lille, bah, les portes, elles peuvent s'ouvrir, quoi, encore une fois. Il devrait rester peut-être Lens et le PSG, logiquement.
Et quand la porte s'entrouvre, tu mets le pied.
Ben, bah, pourquoi pas, alors. Après, on est quand même loin d'avoir gagné.
Pourquoi pas,
faut pas s'enflammer, hein. On est quand même bien, bien loin de tout ça, parce que le niveau de jeu, il est quand même pas terrible. J'ai envie de te dire, même si on gagnait la Coupe de France, est-ce que ça s'ouvrait la saison?
T'as pas l'air d'y croire plus que ça.
Tu vas quand même faire, ouais. Tu vas quand même pas faire la fine bouche, ouais. Si tu peux gagner la Coupe de France.
T'as pas l'air d'y croire, Pierre.
C'est une question de logique. Enfin, si, évidemment, j'aimerais même qu'on, si on pouvait gagner la Ligue des Champions l'année prochaine, je serais même content. Mais si on regarde sur le papier, honnêtement,
non, là, tu vas trop loin.
Le niveau de jeu qu'on a, même la Coupe de France, je sais pas si on peut vraiment la viser, quoi. Alors, évidemment, j'espère qu'on va la gagner. Je suis supporter de l'OL, c'est pas pour rien. Mais vraiment, il va falloir monter le niveau pour aller plus loin.
Ah oui, là, je te garantis que c'est pas avec le niveau dans les petits matchs récents que ça, non. Et c'est pour ça que je te disais que le match de Lille, si tu gagnes ce match-là, c'est que forcément, après, tu peux parfois gagner des matchs. Oui, tu peux aller jusqu'au péno en faisant un mauvais match, en étant dominé. En plus, Lille, ils ont beaucoup montré ce genre de match-là où ils dominent et ils se font contrer. Donc oui, tu peux le gagner contre le cours du jeu. Mais si tu devais le gagner en étant en plus supérieur à ton adversaire, ça serait un bon indice de progression envisageable quand même.
Ouais, puis après dimanche, on joue Lens, qui est pas en grande forme entre guillemets depuis quelques semaines. Donc si on pouvait gagner ces deux matchs et se remettre en confiance, peut-être que ça pourrait entraîner une dynamique qui nous lancerait vers, allez, pas une remontada, mais peut-être une cinquième place en championnat, et puis espérons en effet d'aller au moins en finale.
Puis après tu peux perdre les deux, et puis tu peux arrêter le foot après.
T'enflammes pas.
Ouais, bah après je suis pas trop ambitieux non plus, hein. Gagner la Coupe de France, c'est pas dire un foufou non plus. Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait quand même
cette vague anti-Coupe de France, on dirait Thibaut Jean Grande sans déconner.
Oui, mais tu sais que cette Coupe de France, je l'ai dit l'autre jour dans un avis, mais ça va faire hurler. Non,
mais tout le monde s'en fout de la Coupe de France.
Effectivement, elle a perdu de son attrait.
Alors qu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue en plus, alors plus d'attrait qu'avant.
Mais oui, mais
bah moi je t'avoue qu'avant je connaissais le palmarès de la Coupe de France. Là, je sais même plus que c'est le tenant du titre.
En 1918, c'est le Red Star.
Bah, c'est Nantes, enfin. Contre Nice, contre le Nice de Galtier.
Bah, j'ai plus de souvenirs de Nantes-Calais en 2000 que celle de l'année dernière, tu vois.
Ouais, mais ça, c'est normal. C'était une histoire fantastique.
La Coupe de France a perdu de son attrait.
Et pourquoi? Comment t'expliques ça?
Il y a plusieurs raisons. On a supprimé une thèse. Attention, PowerPoint. On a jusqu'à minuit.
Vas-y, Jean-Jacques Henry.
Dans mon premier slide, je vous mets de la tisane parce que vous calmez un peu.
Bien sûr.
Non, mais il y a plusieurs raisons. Je pense que les clubs qui... contrairement à ce qu'on vient de dire, c'est le chemin le plus rapide et tout, les clubs investissent beaucoup sur le championnat et sur les places, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, sur les places 2, 3, 4, 5, et donc l'objectif, comme l'a dit à l'instant, c'est Nico, je crois. Non, c'est Pierre.
Nico, c'est moi en fait. Ouais, Pierre, c'est l'auditeur.
C'est logique.
C'est moi qui présente, et lui, il a le 32-16. Voilà.
Bah, Pierre, c'est un bon animateur. Et en fait, il y a le championnat qui est privilégié par les clubs, il y a la suppression de la prolongation qui fait que, en gros, ça perd un peu de son côté aventure. Il y a un peu moins effectivement de petites équipes qui vont plus loin, donc on en parle un peu moins. Bref, effectivement, la Coupe de France fait moins rêver. C'est comme ça.
Ouais, comme ça.
Retour de la Coupe des Coupes.
J'ai un peu de mal à comprendre que des supporters, tu vois, de l'OM, de Lyon, qui l'ont pas gagné depuis très très longtemps. Non, j'ai du mal à comprendre.
Mais qui n'ont rien gagné d'ailleurs depuis très longtemps.
Ouais, j'ai du mal à comprendre.
Ouais. Pierre, merci d'avoir été avec nous.
Je pense que là où c'est.
J'aime pas quand les traditions d'un sport sont bafouées. C'est pas de ta faute, c'est pas toi. Je sais que tu contribues à ça.
Non, mais t'as raison, c'est un constat. Et je pense là où t'as raison et où c'est un peu terrible, c'est que les gens qui construisent les Coupes d'Europe et qui veulent faire du nombre de matchs, tu vois, une variable d'ajustement pour les droits de télé, pour tout ça, finalement, certains supporters acceptent aussi ce délire-là. C'est-à-dire faire des matchs de Ligue des Champions.
Non, mais s'ils sont formatés sans même s'en rendre compte, je pense d'ailleurs.
C'est-à-dire que vous avez raison, gagner un trophée, ça devrait être quand même le truc suprême. En fait, tu te dis,
Dans le foot d'aujourd'hui, non.
Tu gagnes des matchs,
c'est l'ouverture des boutiques.
Tu gagnes des affiches.
Vas-y, Pierre.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec vous. Moi, ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'elle me fasse rêver. Et franchement, l'Olympique Lyonnais, depuis 3-4 ans, même si on gagnait la Coupe de France, elle me fait pas rêver. Donc aujourd'hui, c'est pas une question de Coupe de France ou de gagner un trophée. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre du plaisir en voyant jouer mon équipe.
C'est un bon argument.
C'est tout ce que je vois, c'est tout. Après, on peut gagner la Coupe de France et après, on gagne tous nos matchs 1-0, on est content.
Bah moi je me fais chier.
Non mais là, là dans le cas et dans le contexte lyonnais, tu gagnes la coupe, ça te permet d'être déjà d'être en Coupe d'Europe parce que tu enchaînes une deuxième saison sans Coupe d'Europe, c'est quand même terrible pour l'OL. Pardon mais là ce serait une vraie satisfaction
en gagnant tes matchs.
Mais attends, Pierre, franchement entre nous, même tu gagnes salement ta Coupe de France en finale au tir au but après 0-0,
au contraire.
Non mais
tu vas avoir des émotions Pierre.
Oui,
non mais c'est pas ça, tu les auras les émotions quand même.
Ouais, mais regarde, il est en train de te parler aussi du fait de ce qu'on a souvent dit dans l'after, t'as des défaites qui sont plus belles parce qu'il y a un jeu, il y a une épopée, il y a quelque chose. Par exemple, les supporters aujourd'hui, effectivement, de Lens, qui vont peut-être rien gagner parce que c'est comme ça, parce qu'ils s'essoufflent un peu. Bon, bah ils prennent du plaisir, ils prennent et celui qui était à l'antenne avec nous tout à l'heure l'a dit, ils viennent de tellement loin qu'ils prennent vraiment du plaisir avant tout. Donc, je comprends aussi que quand t'as été échaudé, quand tu te prends des baffes dans la gueule à chaque mercato, à chaque décision de l'AS, et quand tu vas au stade et que t'es déçu, t'as du mal à t'enthousiasmer. Maintenant, si tu bats Lille là et que tu t'engages pour un truc qui va jusqu'au Stade de France, peut-être que ça changera un peu quand même.
Et puis si jamais on gagne, ben nos joueurs ils vont être vendus, donc vaut mieux pas qu'on gagne.
Oui. On peut voir les choses
c'est
comme ça.
C'est du second degré. Hein, mais...
Oui, on l'a compris. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous.
Salut,
un bisou Pierre. À très très vite. Tiens, je vous propose également d'écouter Alexandre Lacazette et Laurent Blanc à nouveau. Sur Lacazette justement, alors qu'il face à Lille, s'il joue, ce qui devrait être le cas, disputera son 300e match avec l'Olympique Lyonnais. L'international français qui a déjà planté 16 buts en cette saison, toutes compétitions confondues. Et il a commenté ses performances qui ont été saluées également par Laurent Blanc.
Oui, ça ennuie un peu parce que j'aurais préféré qu'on soit plus haut au classement et qu'on soit meilleur. Qu'en clair, mes statistiques personnelles soient juste la petite cerise sur le gâteau. Maintenant, cette saison, c'est un peu compliqué. On fait avec. Je sais que malgré tout, mes buts sont importants pour l'équipe, pour la saison, pour continuer d'espérer et d'essayer d'atteindre nos objectifs.
Vous pouvez marquer des buts. Ça me surprend pas. Les gens qui marquent des buts, ils en marquent dans tous les clubs où ils passent. C'est des gens qui jouent au football pour marquer des buts et qui ont des qualités pour marquer des buts. Et c'est pour ça que ces gens-là sont très recherchés, sont très chers. Et que tout le monde en veut dans leur équipe parce que bon, marquer des buts dans le football c'est quand même une chose assez difficile voire même parfois très difficile.
Oh là 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 là. Voilà. J'ai le droit de pas réagir parce que
Je vous demande pas forcément de réagir à ce que dit Laurent Blanc.
Il était où quand il a fait cette déclat Blanc
en conf de presse? Parce que tu voulais qu'il soit où?
T'es entre le trou 17 et le numéro 18.
Pour savoir si au niveau des portes qu'il n'y en ait pas un qui ait pris une porte dans la gueule, t'as vu, il les a ouvert en grand là. S'il les a tout enfoncés, les portes.
Bah, il marque des buts, on l'a compris.
Là, il était entre le birdie du 17 et le par du 18.
Oh là 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 là.
Mais non, alors Laurent Blanc, aucun intérêt. En revanche, je voudrais quand même juste souligner, et même s'il est. Il montre des faiblesses, un manque de rapidité par rapport à ce qu'on a connu. Le côté exemplaire, à la fois dans la disponibilité quand ça va mal, dans la communication, et effectivement dans les stats de Lacazette quand même sur cette saison. Parce que c'est clair que il a parfois un peu la charrette par rapport à ce qu'on a connu, mais quand même 16 buts toutes compétitions confondues.
Attends,
dans
il fait
une mauvaise
16 buts, 4 passes D en 20 apparitions, 24 apparitions cette saison, c'est énorme.
Et je trouve que en tout cas. Même si c'est parfois poussif, même si c'est parfois, on va dire, un peu à l'arrache, il a été présent, tu sais, il avait un problème vocal, ouais. Là, il venait faire les interviews d'après match, ouais. C'était pas forcément évident pour lui, à un moment en plus ça allait pas bien pour le club, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas en termes d'attitude et même donc de stats, franchement il est à la hauteur, après... Fallait pas fantasmer ce retour des anciens. On a compris que c'était pas l'idée du siècle, que ce soit pour Favre à Nice ou pour les Lyonnais à Lyon. Mais lui, en tout cas, il est à la hauteur de ce qu'exige, la fonction quand t'es capitaine dans un club comme l'OL qui va pas bien et avec des tas de choses qui le dépassent au-dessus de lui. Je trouve qu'il est à souligner.
Il fait le taf, Lacazette, Daniel, non? Ou pas plus que ça.
Moi, si. Dans
en fait, il fait
dans
pas l'unanimité. Alors quand tu regardes les chiffres, tu dis quand même.
En plus, Lacazette. Franchement, c'est moi. Je sais pas. C'est un type que j'ai toujours trouvé formidable, humainement.
La classe.
Soit... Franchement, c'est un joueur vraiment.
Ouais.
Et où est-ce que j'ai encore lu une interview de lui récemment?
Sur Foot, non?
C'est un type qui est au-dessus. Dans le même magazine où il y a Fonseca, qui déjà est extraordinaire, c'est possible.
Il y a le Fonseca. Je crois que c'est. Il est dans Sur Foot, je crois.
Donc, a priori, c'est quelqu'un que j'ai toujours du mal à critiquer. Et après, est-ce qu'il a apporté autant que les supporters lyonnais
espéraient?
Certainement pas. Clairement, en tout cas, c'est pas le gars sur qui tu vas taper sur les prestations de l'OL en ce moment. Est-ce que l'équipe est assez forte autour de lui? Est-ce que lui-même s'attendait à jouer avec cet effectif-là, avec ce coach-là? Pour répondre à ta question, il fait plus le taf qu'il ne le fait pas.
Ouais.
Oui,
sans plus quoi, c'est ça. Franchement, moi je trouve qu'il n'est pas forcément non plus hyper bien entouré. Hein. L'OL tourne pas bien, ça joue pas bien.
On peut pas lui demander l'impossible. L'idée a été de le faire revenir. On peut trouver que l'idée de faire revenir les anciens n'est pas bonne. Au final, c'est probable. Ce que je veux dire, c'est que lui, dans ce cadre, dans ce projet-là, ultra mal ficelé, avec les dirigeants qu'il a au-dessus de lui, je trouve qu'il fait le taf, et même plus que ça. Et pas seulement sur le terrain, parce que tu sais ce que c'est d'avoir le brassard, par rapport aux supporters aussi, dans la communication, et en plus après, il faut quand même être là aussi pour marquer des buts. Je trouve que vraiment, moi pour le regarder dans les matchs, et à, sauf évidemment sur ces problèmes vraiment, on va dire, physiques, ou quelque part, tu vois que parfois, c'est plus la casette que ça a été, tu vois que oui, en vivacité, en vitesse pure, c'est un peu compliqué, mais faut reconnaître qui fait le boulot.
Supporters de l'OL, on vous attend au 32-16. On poursuit les débats dans quelques instants avec Flo, avec Daniel. Les messages qui continuent de pleuvoir sur Direct Studio. Ah les gars, nous écrit Bilal. J'ai croisé la casette il y a 15 jours en boîte sur Lyon. Complètement explosé. Je fais comme Gilbert. Je lis le dernier message sur machin, je le découvre en même temps que vous. C'est ça, être exemplaire pour un bon capitaine d'une équipe en difficulté. Bon, bah, c'est ce qu'écrit Bilal. Je sais pas si c'est vrai ou pas. D'accord,
S'il le dit, ce qu'il a dit.
Ah, ça, c'est pour Daniel. Daniel, je suis vraiment fan de toi. Mais alors. Bien. Attends. Attends, parce qu'il y a un mais.
Ah, il y a un mais.
Alors, croire qu'il y aura une remise en question en cas de déroute du PSG contre le Bayern, c'est vraiment naïf. Ça ne te ressemble pas. Il y a eu tellement d'éliminations lamentables et ridicules sans que cela ne. Sans que rien ne se passe derrière.
Il a raison, je suis naïf.
Et l'OL qui gagne la Coupe de France pour voir Olas pavaner partout et prolonger Ponceau et Chiron en tant que supporter marseillais, je dis pourquoi pas. C'est ce qui est
pourquoi pas.
Allez, supporters de l'OL, on vous attend 32-16, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Flo Gautreau avec vous également sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live. Vous nous appelez au 32-16, supporters de l'OL également. On était en train d'évoquer le match notamment entre Lyon et Lille en Coupe de France. Ce sera mercredi à 18h15. On a écouté Alexandre Lacazette et Laurent Blanc en conférence de presse aujourd'hui sur ce match de Coupe de France, sur les prestations d'Alexandre Lacazette depuis le début de la saison. Autre info également qui est tombée aujourd'hui, le Progrès qui annonce que Sonny Anderson serait intéressé par un retour à l'OL en tant que conseiller sportif.
Ça a été démenti immédiatement.
Bah alors ça a été démenti. En tout cas, Info RMC, Edmilson est une autre piste étudiée par l'OL également. Alors il se pourrait qu'un ancien, un autre ancien, vous savez qu'il y a eu.
Et il prendrait quel poste Juninho. Parce que Chéroux, lui, reste directeur sportif.
Alors il deviendrait même d'ailleurs directeur sportif plus que responsable du recrutement, conseiller sportif du président. Voilà, cet ancien joueur. Lui ou il se pourrait que ce soit Edmilson également, l'ancien joueur également de l'OL.
Alors là, on est encore dans la tambouille olassienne qui consiste à aller appeler un ancien sur un poste un petit peu. On va dire fantôme, pour faire plaisir aux supporters. Le pire, c'est qu'il l'a fait avec Juninho, qui était réclamé pour les supporters, mais à mon avis, pour de bonnes raisons. Mais lui, il l'a pas fait pour de bonnes raisons, il l'a fait dans sa tête pour faire plaisir aux supporters. Et là, il est en train de faire pareil. Parce que là, l'histoire de Sonny Anderson, elle est drôle. A priori, effectivement, c'est pas le, ça vient pas du club, mais Sonny Anderson, il a le droit, lui, sera intéressé par ce challenge. Ouais, on le comprend. C'est des trucs d'ambassadeur, en gros, enfin, où tu sers pas à grand chose, pour faire simple, même si on met le mot de conseiller sportif, parce que quand t'as déjà Olas, alors Textor, Olas,
ouais, si
Ponceau,
c'est genre, tu dois servir
Chiroux,
la champagne.
Ouais, si loge, c'est pour dire, oui, alors conseiller sportif, je dis deux, trois mots à l'oreille du président. Bon, on sait que Bernard Lacombe à une époque le faisait, oui. Mais pour le coup, c'était vraiment dans un fonctionnement plus réduit et plus efficace et que c'était vraiment le cas et qu'il avait un lien avec les joueurs d'ailleurs et le vestiaire aussi. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, ça, c'est un peu pipeau. C'est un peu ce qu'on avait évoqué aussi, d'ailleurs, sur Papin à l'OM. Tu vois, si c'est pour des fonctions non opérationnelles et qui servent juste, entre guillemets, à faire de l'affichage, notamment par rapport aux supporters, je pense que les supporters de l'OM, maintenant, sont plus très dupes de tout ça. Et là, quand ils entendent, d'ailleurs, que c'est plutôt Sonny Anderson qui est intéressé par le truc, mais pas forcément le club, et que derrière, par contre, t'apprends que Edmilson est peut-être aussi dans les tuyaux, moi, à mon avis, tout ça n'a aucun intérêt. Après, ce qui est important, c'est la structure du club. Aujourd'hui, la structure du club, elle va évoluer un jour. On sait en fait la fin de l'histoire. Le problème, c'est de savoir quand ils font ça. C'est le départ d'Olas. Quand est-ce que tu changes la façon de fonctionner du club? Tout le monde sait. Et par respect pour ce qu'il a fait, c'est difficile de dire
merci,
casse-toi, va-t'en, machin, je comprends. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais maintenant, tout le monde sait que la prochaine étape pour Lyon, c'est quand Olas va partir avec une nouvelle organisation. Laquelle? Et sera-t-elle mise en place par Textor? J'espère que non, entre guillemets, parce que je suis pas très certain du bonhomme. Mais c'est terrible. Tout ce qui va être pris comme décision, tant que Olas sera là, et pour l'instant il est là, bah ce sera ce genre de truc. C'est-à-dire, honnêtement, des décisions qui servent pas à grand-chose, et voir qui pourrait à la limite agacer les plus critiques des supporters, ceux qui suivent et qui aiment vraiment le club et qui en ont un petit peu marre de se faire rouler dans la farine.
Ça bouge vraiment, vraiment, vraiment et qu'il se passe vraiment un truc, quoi.
On accueille Louis, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Louis.
Bonsoir messieurs.
Comment il va Louis?
Je crois que tu avais dit Louis.
Louis.
Ah, bah, ça va, malgré les résultats et le jeu catastrophique, ça passe.
Bah, résultat, là, ça va en ce moment, sur un passé proche.
On est 9e. Hein.
Oui.
On est 9e.
C'est vrai.
Non, je voulais appeler déjà pour revenir sur les propos. Daniel avait raison. Moi, ça me ferait grave qu'il fait de gagner la Coupe de France.
Ah, merci.
Ça fait 10 ans qu'on n'a rien gagné, 10 ans que je me suis rien mis sous la dent à part la Coupe du Monde avec les Bleus, parce que je suis supporter français. Et c'est vrai que c'est long, c'est très très long. Mais je pense pas qu'on puisse le faire avec cet effectif, puisque on a, je pense, le pire effectif de l'OL depuis plus de 20 ans, et que à tous les niveaux du club c'est catastrophique, qu'on peut même plus espérer l'année suivante, parce qu'en fait les dirigeants ne changent pas. Il a confirmé Chirou qui va devenir directeur sportif. Donc
tu sais quoi, tu me fais penser.
Pas très positif, hein.
On devrait oui. Justement pour des clubs comme ça, j'allais dire comme Lyon, mais comme d'autres aussi. On devrait lancer un truc un soir, des supporters qui nous appellent, qui nous donnent sur les 10 dernières années leur top 5 kiff.
Tu veux dire de joueurs ?
Non, de moments, de soirées où tu vas au lit et t'as les yeux qui brillent, quoi. Parce que là, c'est Louis. Louis vient de dire sur les 10 dernières années, dans son top 5, il met la Coupe du Monde avec les Bleus. Tellement Lyon l'a visiblement assez déçu. Donc, si on enlève équipe de France, il me dit son top 5 du kiff.
Alors vas-y Louis, vas-y improvise.
Bah, ça peut parfois même être un match de championnat.
Ouais, vas-y. C'est quoi ton top 5 kiff?
Je sais pas. C'est le fait, ça fait depuis tellement longtemps. Je dirais que c'est le Final Four où pour le coup j'ai vraiment kiffé. Et encore, il y avait pas tout le côté ambiance. C'était l'été, donc c'était un peu moins prenant, mais c'était quand même un bon moment.
C'est quoi le soir où tu bats Manchester City?
Ouais, la Juventus, mais l'aller contre la Juventus était pas mal aussi.
Ouais.
Le match, la double confrontation contre la Juve, le match contre Manchester City, un ou deux matchs contre Marseille où on voulait pas à domicile chez eux, et le 5-0 contre Saint-Étienne, mais ça remonte à quelques années, mais sinon, c'est loin.
Voilà, il a fait son top 5.
Il l'a fait. Tu vois, c'est possible.
Ouais.
C'est possible. T'en penses quoi, là, des infos, là, qui filtrent comme quoi, un ancien de l'OL pourrait revenir à Lyon en tant que conseiller du président Aulas?
C'est marrant. Un ancien de l'OL qui est revenu à Lyon, c'était assez récent. C'était du mignon, non?
Oui, paraît-il, ouais.
Voilà. C'est tout. Voilà. J'attends de voir. Il y en a qui sont intéressants. J'aime bien.
Moi, je me demande dans quelle mesure Aulas fait pas ça justement pour effacer l'échec Juninho. Tiens, regardez, il y en a d'autres, des grands anciens. Et avec celui que je vais prendre maintenant, ça va mieux se passer.
Ouais, mais après, si c'est pour les descendre dans la presse et leur donner tout le temps.
Ouais, justement, là, il a envie, il se rattraperait, quoi. Il ferait venir un ancien, puis ça marcherait.
Ouais, non, mais Aulas, je pense qu'il faut qu'il passe la main. Là, il commence à se faire un peu vieux.
Mais
il a fait beaucoup de très bonnes choses. Là, je pense que c'est un peu la fin quand même.
Louis, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Tu reviens quand tu veux.
Je t'ai juste à dire un grand merci à Daniel Riolo. Ça fait depuis 15 ans que j'écoute l'After. Je suis passé après France-Tunisie en début d'année dans les studios. Donc vraiment un grand kiff de vous écouter tous les
soirs.
Comment
ça, t'es venu à Doha?
Non, j'étais dans les studios avec Nico.
Pardon Louis, ok, j'ai compris. Merci à toi pour ta fidélité.
Merci Louis d'avoir été avec nous, bisous Louis, à bientôt.
Salut Louis.
À bientôt,
ciao, salut Louis. Tiens, c'est le moment du Survivor, parce que ça y est, on a le dénouement du Survivor.
L'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Qui a gagné cette triste édition?
C'est la fin de ce troisième Survivor de la saison.
C'était vraiment triste.
Il y avait 5 membres de l'After en course, ils sont tous tombés, et donc il y a 5 gagnants.
Oh là là.
C'était le 5e tour, quand même.
Moi, je considère que s'ils sont tous tombés, il n'y a pas de gagnants.
Il n'y a pas de gagnants.
Jimmy Brown, Paul Vexio, Thibault Leplat.
Non, c'est pas des gagnants.
Et moi, on avait parié sur Lorient, qui n'a pas battu Angers. Arthur Robert avait misé sur Marseille, qui a perdu contre Nice.
Pas des gagnants, ça.
Et donc, parmi les parieurs sur Winamax, il y a 48 vainqueurs, et on se partage 10 000 balles. Et ouais, chacun en poche 208 euros de free bets. C'est pas mal, non?
Ouais.
On a pris 200 balles en perdant.
Pour vous, ça me désole. Pour les autres,
moi, je suis très content, sache-le.
Mais pour vous cinq, là, quelle tristesse, quel manque de panache dans les choix, dans la conduite de ce Survivor.
Franchement, je vais vous faire un café.
Bon, on va redémarrer là un petit peu.
Deux.
Le Survivor, le prochain. Là.
On le reprend le week-end prochain, me dit Jérôme Thomas, comme d'habitude.
Merci. Bon, celui-là, je le gagne.
Je sais pas, il y a un petit.
Non, il n'y a rien.
On continue. Non, y a pas, je croyais qu'il y avait un petit habillage derrière. Tiens, je vous donne juste.
Il y en a un quand il y a des vainqueurs.
Il n'y a vraiment pas de vainqueur.
Tiens, juste petites infos pour terminer. Le Stade Bressois qui a officialisé la signature de Loïc Rémy. Voilà, 36 ans. Il était libre depuis son départ d'Adana Demirspor l'été dernier. Il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.
D'accord.
Loïc Rémy, c'était dans les tuyaux. Il l'avait annoncé, Eric Roy.
C'est pourquoi je n'ai pas gagné le dernier de son arrivant.
Non, mais toi, t'as toujours des excuses à la con.
Ah non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a plombé, qui ne peut pas rentrer mon résultat.
Mais t'as qu'à le faire tout seul, comme tout le monde.
Je ne sais pas le faire.
Bah arrête tes conneries, Daniel. Tu paries. Bah, ah, tu sais le faire maintenant, m'a dit Jérôme Thomas.
Non, bah non.
Bah, attends, tu fais du poker sur le Wiener.
Bah, poker, je sais jouer, mais je sais pas.
De toute façon, il aurait été planté, il aurait mis l'OM contre Nice.
T'aurais mis quoi d'ailleurs,
ce week-end-là? j'aurais mis PSG contre Toulouse.
Mais ça se trouve, t'avais déjà joué Paris avant.
Non, je le garde pour la fin.
Ouais, c'est ça, ouais. Bon, merci beaucoup, Daniel. Merci, Flo. Merci, Jérôme Thomas, à la production.
Clermont, j'aurais mis, évidemment.
Merci, Daniel Torres, à la réalisation. On se retrouve demain, bien entendu, à partir de 20h dans l'After. N'oubliez pas, il y a des places à gagner, pour Marseille.
Pour Marseille, Paris. Je te le dis tout de suite.
Oh là là.
Pas rigoler.
Pas demain, bisous.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.